Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, on va se régaler pendant 2 heures en votre compagnie. Faites attention, vous êtes nombreux sur la route, restez bien à l'écoute de Roten sans flamme pendant 2 heures. On va vous détendre, un peu, pas trop quand même, parce qu'il faut rester concentré sur la route. Mais pour ceux qui sont pas sur la route, eh ben, vous allez vous régaler. Parce qu'on a une belle équipe, comme tous les joueurs dans Roten sans flamme, à commencer par Benoît Boutron, le chef d'orchestre.
Salut, il est là. Jérôme, ah, salut à tous. Bah oui, on pense à tous ceux qui partent en vacances. Bah prenez le temps, hein, parce que là, vous avez 2 heures pour nous écouter, 2 heures d'expertise, 2 heures d'humour.
Vous avez de la chance, profitez.
Tout ce qu'il faut dans cette émission. Ouais.
Bon, on a une belle équipe aujourd'hui.
Ah oui, Jean-Michel Arc.
Ah bah ouais, bah, notre dinosaure, il est là. Salut, Jean-Mi.
Bonsoir à toutes et à tous. Salut tout le monde.
Ça va, Jean-Mi?
Bonsoir, Captain.
Très bien, très bien, très bien.
Ça va aller, 3 émissions dans la semaine?
Oula.
J'ai jamais été aussi bien. Je suis là. Je viens de prendre ma tension, elle est excellente.
Ah, bah,
mes pulsations, je suis à 56. À 56. Bah,
et je suis sûr que ta chienne n'est pas loin. C'est pour ça que ça te détend, ça.
Ah non, cet après-midi, elles se sont promenées.
Eh ben tant mieux. Eh ben on embrasse Romy.
Romy et Toscane.
Toscane, ouais, Romy. Allez, bon, on est avec. Pas Romy, c'est pas Toscane, mais c'est Steve Savidan. Salut Stevie.
Un athlète.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien.
Ça va, mon Stevie?
Ça va?
Ça y est. Fin du stage, du stage au Bénin.
Bravo.
Donc,
Stevie.
Voilà, mon petit périple africain de 2 semaines en Côte d'Ivoire et Bénin.
Ton périple.
Mon périple.
Ah oui,
ça s'est bien passé.
Bah franchement, il y a une jeunesse footballistique au Bénin qui est, franchement, c'est à voir. C'est pas un pays que tout le monde regarde en premier. Mais honnêtement, pendant une semaine, j'ai vu des jeunes garçons et des jeunes filles. Honnêtement, ça commence à bien évoluer ici, à se structurer. Donc,
bravo,
franchement, c'était super intéressant.
Merci,
et je conseille le Bénin parce que c'est quand même un pays qui est riche d'histoire, de tout. Il y a des trucs incroyables ici à faire.
Il nous fait un podcast. Il nous a fait un podcast.
Non, mais c'est bien.
Honnêtement, Jérôme, je vais te dire honnêtement.
Bravo, et ben on les embrasse, les Béninois.
C'est pas un pays où, tiens, on va tout de suite en vacances, mais honnêtement, je le conseille.
Et ben voilà. Franchement, la Dream Team sur le terrain. Voilà. Bravo, Steve.
Bah, dis-leur qu'ils écoutent Roten sans flamme tous les soirs.
Et ben, Jérôme, alors justement, il y a plein de gens ici qui écoutent Roten sans flamme, qui écoutent RMC en général.
Ah, bah, ils ont bon goût, alors.
Et ils m'ont dit à quand ton émission aussi.
Vraiment, il y a des gens qui pensent ça.
Bah, tu sais quoi, on va commencer par un podcast.
Ah ouais. C'est quoi, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, bon, on va commencer par un podcast.
Ouais.
Bon, c'est la tradition. La tradition du vendredi dans Roten sans flamme. On lance la journée de Ligue 1. C'est la 23e ce week-end. Avec le multiplex à 19h, nos meilleurs correspondants seront là.
Ouais.
Lance Monaco demain.
Il
n'y
a pas de Thibaut, alors.
Ah si, il est là. Lance Monaco, est-ce que c'est un tournant pour les Lensois qui sont leaders de Ligue 1? On en parlera donc à partir de 19h. À 18h30, ça va mal à Lille. Nouvelle défaite hier soir.
Ah, c'est pour ça que Thibaut est là.
Battu à domicile par l'Étoile Rouge de Belgrade en barrage aller de Ligue Europa.
On a vu un beau match.
On fera le procès ce soir d'Olivier Létan qui s'accroche à Genesio. Il ne veut pas se séparer de son entraîneur qui est pourtant en perdition. On fera le débat donc
quel
à 18h30.
Quel exemple.
Tout à fait. Mais tout de suite, parlons de l'OM, messieurs, parce que la sérénité d'Habib Bey impressionne déjà la Dream Team.
Un jour, être entraîneur à l'Olympique de Marseille fait partie des rêves d'un joueur comme moi. J'y ai joué, j'y ai été capitaine.
On m'appelle l'OVNI.
J'ai un ego surdimensionné. Et je pense que même en tant qu'entraîneur, cet ego, à un moment donné, me fera me casser la gueule. Mais t'apprends, en fait, de toutes ces situations-là.
Tu deviens tellement parano, les arbitres, ils vont te ken.
Il y a un élément pour moi qui est fondamental dans ce qu'on va vivre, c'est cette notion de plaisir.
On est surtout dépendant
de
Tuesday, Happy Bay. Wednesday, Thursday, Happy Bay. Ce qui est important ici, vous savez, il faut vibrer. Les gens ont envie de vibrer, les gens ont envie de se reconnaître dans cette équipe, dans ce qu'elle dégage.
Ce club est-il inentraînable?
Franchement, je veux dire, j'en ai aucun avis. Je vous jure.
L'expertise.
Là, c'est le haut niveau de Roten sans flamme.
Ah bah oui.
Adaptation express pour Habib Bey à l'OM un peu plus de 24 heures après son arrivée. Il affronte déjà Brest ce soir à Francis Leblay, 20h45 sur RMC. Enjeu sportif majeur, déjà 5 points de retard sur les Marseillais, sur les Lyonnais à 12 journées de la fin. Ils sont 4e pour l'instant, les Marseillais. C'est le dernier match pour l'OM avant le choc justement contre Lyon dimanche prochain au Vélodrome. Ce soir, on a sorti les gros moyens parce qu'on a envoyé Jean-Louis Tour à Francis Leblay. Salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
L'After Live dès 20h avec Jean-Louis. Il est là où les choses se passent. Et voilà, exactement.
Bien sûr.
Le nouveau coach de l'OM est déjà sous pression, Jean-Louis, ou il faut lui laisser un peu de temps?
Bah, un peu des deux, mais c'est sûr qu'il y a une double urgence à Marseille. On a parlé des points, l'OM qui n'a plus gagné en championnat depuis 3 matchs et ne doit pas laisser le train du podium s'échapper. Lyon donc 3e à 5 points avant ce bouillant Marseille-Lyon la semaine prochaine. Et l'autre urgence, c'est celle du contexte, ramener de la sérénité, calmer les choses. C'est la tâche qui attend Habib Bey dès ce soir, et il est préparé à cela après les mois volcaniques avec De Zerbi.
Je pense qu'on est tous différents en tant que coach. Je me souviens de quelqu'un qui m'est très cher et quelqu'un que je considérais comme mon père spirituel, Pape Diouf, qui m'avait toujours dit, Habib, quand le feu brûle à Marseille, parfois il faut le laisser brûler parce qu'il s'éteint tout seul. Mais de temps en temps, il faut être capable, face à cette émotion-là, de rester froid et de rester calme et serein. Ce qui est important, c'est d'apaiser le contexte. Et ce que j'ai dit aux joueurs, c'est justement qu'on allait travailler dans la même direction, et c'est ce qui va faire aujourd'hui qu'ils vont se sentir en sécurité dans ce qu'on a défini avec le propriétaire et Mehdi. C'est justement apaiser ce contexte, mais qui restera volcanique quoi qu'il arrive.
Voilà, surtout s'il y a des convenus pour Marseille ce soir. Balerdi suspendu, faudra donc lancer la machine à Brest, 13e de Ligue 1, et un adversaire qui en a pris 12 sur les 3 derniers matchs contre l'OM.
Merci Jean-Louis, reste avec nous. La une de Rotten sans flamme, y a-t-il déjà urgence pour Bey et l'OM? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme.
Ah bah urgence pour Bey, non, pour l'OM, oui. Donc, mais aujourd'hui...
Les deux sont liés désormais.
Oui, il est entraîneur d'Olympique de Marseille, donc encore une fois, Habib, il a réussi son examen de passage en termes de communication, parce qu'il parle très bien, comme il a très bien parlé aussi à Rennes. Le problème qu'il a eu à Rennes, c'est que on lui a même reproché, c'est les banderoles des supporters rennais quand il est parti. Oui, les paroles, les beaux discours, mais après on voulait des actes sur le terrain, et c'est vrai que ça s'est pas toujours traduit de la même façon par rapport à cette communication qui est excellente, parce que tout ce qu'il dit, il a raison. Je pense qu'il faut à Marseille, dans ces clubs là où qui sont très volcaniques, comme il le dit, où il y a une grosse ferveur, forcément, il faut gérer les émotions. Et quand tu as un entraîneur qui est rattrapé par ces émotions-là, qui n'arrive pas à les gérer, forcément, il dégage du stress, il dégage de l'anxiété, il dégage de la frustration, il s'en prend un petit peu à tout le monde, ce qui était le cas de Zerbi, ce qui était le cas des autres entraîneurs avant de Zerbi aussi. Donc, peut-être que lui, là-dessus, il va avoir la clé. Moi, j'ai pas l'impression, en effet, et c'est ça, c'est ce qu'il a montré à Rennes, et ça c'était aussi pour lui, que c'était un entraîneur qui était ultra proche de ses joueurs au bord du terrain, tu vois, à haranguer tout le monde, à hurler sur tout le monde. J'ai l'impression qu'il avait quand même ce calme là même quand il était joueur, il était un peu comme ça, donc tant mieux qu'il le garde, parce qu'à Marseille c'est pas facile.
Après,
il
me disait ce soir, c'est les joueurs, c'est aux joueurs de faire le résultat,
c'est pour ça, aujourd'hui je vais pas vous savez ce que je pense de l'arrivée d'Habib Bey. Une fois que je l'ai dit, moi c'est pas mon meilleur ami, vous l'avez senti dans tous les cas, on s'apprécie pas forcément, mais peu importe, après il faut être objectif et surtout il faut être lucide, et ma lucidité c'est que aujourd'hui Habib Bey, si ça se passe bien ce soir, c'est pas grâce au travail tactique d'Habib Bey, ce qu'il a mis en place. Il vient d'arriver il y a 24 heures. Donc,
si ça se passe mal, c'est pas forcément de sa faute.
Exactement. Et si ça se passe mal, ce sera pas de sa faute, parce que ça appartient aux joueurs. Les joueurs, aujourd'hui, ils doivent se sortir les doigts d'où je pense. Parce que s'ils ont comme objectif, et ça a été mis en place par le propriétaire et par Mehdi Benatia quand il est revenu, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de finir sur le podium, et ils sont encore capables, mais il faut pas prendre trop de retard, donc parce que il reste 12 journées de championnat, parce que t'es à 5 points de Lyon, parce que là c'est un match à l'extérieur, et que la semaine prochaine tu vas recevoir Lyon pour un match qui sera une première finale, et là peut-être que le travail de Bey sur les prochains jours va être important, donc mais les joueurs, c'est à eux de se prendre en main. Si vous pensez, les joueurs, que vous méritez d'être à Marseille, et vous l'avez pas montré pour l'instant, vous méritez d'être à Marseille, que le statut que vous avez à Marseille est logique, et ben montrez-le ce soir à Brest. Parce que vous pouvez pas repartir de Brest sans avoir une victoire et sans avoir 3 points. Si c'est un match nul, c'est une contre-performance. Alors je te raconte pas si c'est une défaite. Donc oui, c'est les joueurs avant tout. Les joueurs, ils ont certainement eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la tête de l'entraîneur au d'un moment, parce que l'entraîneur, ils en pouvaient plus. Alors je sais pas si c'est la faute d'un tel ou la faute que du staff et de l'entraîneur. Il est plus là. Ils ont eu la tête de Mehdi Benatia au d'un moment. À l'arrivée, il est revenu, et pourtant il n'était pas forcément apprécié, et encore certainement par certains joueurs, mais n'empêche qu'il est là, ils ont un discours qui vont dans la même direction. Bah écoute, aujourd'hui les joueurs allaient faire tourner le compteur et repartaient sur une bonne dynamique. Voilà ce que je pense.
Est-ce qu'il y a urgence, capitaine, pour Bay et pour l'OM?
Non, mais Jérôme a insisté un peu sur Bay et beaucoup sur les joueurs, et je suis complètement d'accord avec lui. Bon, les derniers exemples sont quand même révélateurs de l'importance d'un entraîneur lorsqu'il vient de partir ou lorsqu'il vient d'arriver. Je ne crois pas que Rennes a battu le Paris Saint-Germain parce que le nouvel entraîneur
Tom Mouet, l'entraîneur intérimaire, était
là depuis 48 heures. Ah oui, mais il les connaissait bien parce qu'il s'occupait de l'équipe B, c'était formidable, c'était remarquable. Bon, je pense que ce sont les joueurs qui ont pris les choses en main, et je ne crois pas que, ou alors c'est, ça veut dire que les entraîneurs ne servent pas à grand chose, et si en 48 heures Habib Bey a totalement changé le visage de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Moi je pense aujourd'hui que on a surestimé la qualité de cet effectif. Il y a des bons joueurs
quand même
Non, mais il a raison, Jean-Michel, Benoît. Bon,
quand même, en Ligue 1,
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, Benoît. J'ai pas commencé ma phrase.
Ouais, qui te saute à la gorge.
Je vais te dire, Benoît, dans l'effectif actuel, si c'est une équipe formidable,
oui.
Quand tu vois les résultats, les derniers résultats, heureusement qu'ils ont eu une bonne série qui leur a permis de se mettre dans la roue ou sur la troisième marche du podium. Voilà, on dit la troisième marche, Benoît.
Oui.
Pas dans la roue du Paris Saint-Germain ou de Lens, c'est
la troisième
marche à distance respectable. Et aujourd'hui, Benoît, si tu me dis que l'Olympique de Marseille, à chaque match à l'extérieur, est capable de battre n'importe qui, et notamment le stade brestois, Bruges ou que sais-je, y en avait d'autres avant ce match-là. Ah bah oui. Bon, je veux bien, mais moi, je constate qu'à l'extérieur, cette équipe devait prendre un point à un Bruges. Non, ne devait perdre que 2-0 à Bruges. Ben, ils n'ont fait ni l'un ni l'autre.
Donc, non, mais d'accord.
Moi, je veux bien que
mais tu dans l'absolu, l'effectif, mais non, il est de qualité.
Mais
j'en
connais des journalistes qui, après 3 matchs, considèrent que celui-ci est une pépite.
Celui-ci est une mine d'or.
celui-ci. et qu'à la sortie, c'est un gros coup d'épée dans l'eau.
Ouais.
Donc, écoute-moi bien.
On est entouré,
moi, je ne regarde que les résultats.
Benoît et Jean-Louis, donc.
Non.
Je ne regarde que
justement,
les résultats.
J'allais intervenir. Je ne suis pas d'accord.
Moi, je vous dis juste que, sur l'effectif de l'OM, tu peux atteindre les objectifs qui sont fixés par le club. Tu peux très bien, avec cet effectif-là, terminer sur le podium et aller gagner la Coupe.
Il manquerait plus.
Excusez-moi.
C'est pour ça que je ne comprends pas bien ce débat sur l'effectif. Ils ont fait deuxième avec un effectif qui était moins bon l'année dernière.
Ben oui.
Donc, il y a eu 2-3 ajouts.
C'est toi qui le dis, qui est moins bon,
Jean-Louis. Il a
mais
raison
non,
quand même. Il était
non,
moins fourni,
non,
bien sûr.
Mais non.
Par rapport à l'année dernière.
Deuxième, avec un effectif subjectif.
Avec Cornelius, Balerdi et compagnie, quoi. Ouais.
Eh bien, ils vous ont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ah, c'est-à-dire qu'on vous a fait avaler des couleuvres et que vous considérez que certains joueurs sont des
vous êtes vraiment des gogos. Hein.
Je sais pas, Aguerre, c'est meilleur que Brassier ou pas?
Ah bah un peu.
Moi, j'aime bien Brassier, moi.
Oui.
La défense centrale.
Est-ce que Emerson, c'est meilleur que Merlin?
Ah bah Merlin, si tu le fais jouer ailier droit comme Habib Bey le faisait, c'est sûr que là c'est meilleur.
On peut continuer comme ça.
Bah oui.
Est-ce que Timber c'est meilleur que Bennacer qui jouait presque pas?
Est-ce que Weah c'est mieux que Mourinho?
Timber va peut-être pas juger Timber en 4 matchs.
Je pense que l'effectif. Non mais je pense quand même
que l'effectif. Alors entends-moi, la capitaine marquée.
Mais c'est même pas la peine. Est-ce que le roulis d'aujourd'hui est meilleur que le roulis
d'hier? D'accord, ok.
Ah mais après c'est le rôle de l'entraîneur de mettre son joueur dans les meilleures dispositions.
Bon.
Pavard, c'est une. C'est un roc. C'est un mur.
Pavard, c'est pas un bon argument pour nous. C'est sûr.
Pavard, c'est extraordinaire. Au milieu de terrain, il y a des révélations. Ils ont décroché la lune.
Il y a le départ de Rabiot.
T'as fait repasser Kondogbia au milieu, alors que derrière, je pense qu'il aurait fait la Coupe du Monde.
On ne se rend pas compte de quoi.
Donc c'est fou. Bon, Steve, toi,
qu'est-ce qu'il y a urgence pour Bay et l'OM alors?
Bah, de toute façon, à l'OM, il y a toujours de l'urgence. Moi, je veux bien que Habib Bey, voilà, mette vraiment du calme. Est-ce qu'on va voir sa patte? Forcément, tactique, non. Forcément, on va pas la voir. Hein. Les joueurs ont une grande responsabilité dans le prochain résultat. Oui, là, on va peut-être voir une patte Bey dans l'attitude, dans la posture des joueurs. Peut-être, oui, peut-être qu'en 48, 72 heures... parce qu'il a signé dernièrement, mais je pense qu'il était déjà un petit peu avec certains joueurs depuis quelques jours, parce que c'était plus contractuel, hein, la signature. Mais je pense qu'il était au moins depuis le début de la semaine avec certains joueurs au téléphone ou par visio. Ça se fait très régulièrement. Moi, je pense qu'on va le voir là-dessus. Par contre, Habib Bey, il faut quand même se rappeler de certaines interviews, parce que bon, c'est l'avantage aussi de l'histoire, c'est qu'il a toujours prôné que la France est où il y avait des joueurs qui ne travaillaient pas assez. Et là, je reviens sur De Zerbi, voilà, où l'effectif marseillais a fait remonter qu'il travaillait trop fort et trop longtemps dans la semaine. Donc moi, c'est là où c'est que j'ai une petite crainte, c'est de me dire que s'il amène à un curseur très très haut en termes d'exigence, pas forcément là, mais dans les jours à venir, et qu'en finale, il y a une confrontation entre ces joueurs dans leur capacité à vouloir travailler fort, et surtout comme le coach le demande, je me dis, ouais, ils ont quand même eu De Zerbi sur ça, sur l'exigence, sur le sur le truc très engageant. Non,
mais quand t'as pas les résultats après,
défend ça.
Non mais
et en plus t'as pas les résultats. Et tu n'as pas les résultats et tu arrives à encore à être compétitif. C'est le plus grand des paradoxes de l'OM cette année.
Non, mais Steve, c'est que Steve, même sur ce point du travail, les joueurs là actuellement, ils ont juste une chose à faire, ouais, c'est à économiser leur salive.
Ah, hein, bah, c'est clair. Ouais.
Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, Jean-Michel. Suite, hein. Non, mais tu sais très bien, Jean-Michel, je suis complètement d'accord avec toi, mais tu le sais très bien, dans un effectif, quand les joueurs, certains joueurs, veulent la tête d'un entraîneur, ils peuvent l'avoir.
Mais vous êtes ça, sûr qu'ils voulaient la tête de De Zerbi? Les clubs qu'ils ont prises, ils n'ont pas fait
exprès
de les prendre, les Marseillais, pardon.
Je ne t'ai pas dit ça. Mais tu sais, c'est une petite musique insidieuse qui se dit, ah tiens, on est moins bon, tiens, je joue moins, tiens, l'entraîneur ne me convoque pas, tiens, il ne me fait pas jouer à mon poste. Il en parle à un autre gars. Mmh. Ah oui, t'as vu,
non,
toi
mais ça,
aussi.
Ainsi de suite. Là où t'as raison, Steve, c'est pour répondre à Benoît. Benoît, il y a juste à voir les attitudes. Je te dis pas que tu lâches, parce que lâcher un entraîneur, non, c'est des grandes phrases. Nous, on a connu ça. C'est quand en fait tu as l'impression, tu donnes l'impression de pas avoir fait le maximum. C'est pas que tu veux le faire, c'est que le message en effet envoyé par l'entraîneur, il te correspond plus, ou tu te poses trop de questions. Et en fait, on a le sentiment, en effet, sur les gros matchs là qu'on vient de citer, que ça soit Paris, que ça soit Bruges, que les joueurs, ils étaient pas du tout en adéquation avec ce qu'ils demandaient.
Pour moi, pourquoi ça s'est terminé comme ça, Steve? C'est parce que justement, il y avait beaucoup trop de turnover et les joueurs s'y retrouvaient plus. C'est pas une question d'investissement ou de. Mais si, il y avait aucune logique. Toutes les équipes changeaient systématiquement.
Ça, c'est sûr. Attends, Benoît, tu me compares. Là, tout à l'heure, tu comparais l'OM de cette année et l'OM de l'année dernière. Qu'est-ce qui se passe avec l'OM de l'année dernière? C'est que quelque part, De Zerbi arrive à retirer, parce que vous parliez de la qualité d'effectif, il arrive à retirer un collectif puissant l'année dernière.
Mais l'année dernière, t'as pas de Coupe d'Europe, t'as un effectif plus restreint.
Attends, écoute,
c'est
Benoît,
plus facile.
Benoît. Sauf que cette année, ils ont un joueur, on va dire, comme le disait Jean-Michel, il a raison, objectivement, ou comme vous voulez, peut-être meilleur individuellement. Par contre, cette année, t'as un collectif qui est fatigué. Et c'est ça le truc. Et quand je dis collectif, c'est pas que les 11 qui jouent. N'oubliez pas ça. La semaine, tu as 30 joueurs. Donc ça veut dire que tu en as à peu près 20 qui sont sur le carreau. Et ben ces 20 qui sont sur le carreau cette année, ils sont plus négatifs que tes 20 qui étaient
sur le carreau. C'est plus dur de gérer les
rangs. Ouais, mais puis surtout après, il y a par rapport à l'année dernière, c'est pour ça que c'est incomparable. Déjà, t'as la Ligue des Champions qui rentre dans ta saison, bah oui, et forcément, on l'avait dit, l'analyse que t'as une fois par semaine après un match de championnat, c'est un peu plus dur avec la Ligue des Champions, parce que en effet, tu reçois des claques par moment, ce qui a été le cas de Marseille. Donc ça, il faut se remettre après 2-3 jours après pour un match de championnat. Et puis surtout, t'as aussi, et je te dis, en termes de gérer les émotions, je trouve que ça soit, et ils l'ont montré l'année dernière, hein, les réactions de Longoria, de Mehdi Benatia envers les arbitres, de Zerbi aussi. Moi, pourtant, je les ai protégés l'année dernière, parce que je me suis dit, oh là, c'est tellement le feu à Marseille, ils se posent des questions à savoir s'ils vont atteindre l'objectif, parce que c'était très, très difficile sur la deuxième partie de saison.
Oui.
Et on avait l'impression,
ils sont allés le chercher.
Avec le Retiro et tout ça, qu'ils sont allés le chercher et qu'ils sont bien sortis. Cette année, le problème, c'est qu'ils ont été rattrapés rattrapé par ces émotions-là, parce que ils t'ont expliqué en début d'année, tous, que ça soit De Zerbi, Benatia et Pablo Longoria et même les joueurs, que l'effectif était bien meilleur, qu'ils avaient de l'expérience, qu'ils avaient gagné du temps par rapport à la Ligue des Champions qui redécouvre après 3 années d'absence. Et puis à l'arrivée, mauvais résultat. Casquette. Et ben là, tout le monde se tourne le dos et se rejette la faute.
Et c'est un peu ça. Et toi, Jérôme, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vécu.
Semaine de stage en Espagne,
Jean-Michel, Jérôme, toi et moi, c'est qu'on a vécu. C'est que les semaines, quand tu ne joues pas, elles sont très longues.
Ah ben, c'est sûr.
C'est que quand tu joues pas, quand tu fais la Ligue des Champions, quand tu vois tes copains partir, ça, et puis après on te dit, ouais, bah tu sais quoi, pour que tu gardes du temps de jeu, va jouer avec la réserve. Tiens, tu sais quoi, va t'entraîner à la réserve. Les mecs sont en train de faire un match à l'extérieur en Ligue des Champions ou à domicile, toi tu vas jouer avec la réserve. La semaine d'après, quand tu reviens en semaine qui n'est non européenne, quand tu retrouves l'effectif, et puis tu te dis, putain, faut que j'aille chercher ça. Et puis en plus, le coach, il fait 30 compositions différentes.
Bah oui, t'as aucune repère. Bah ouais, t'as aucun repère.
Mais je peux te le dire honnêtement, quand t'es joueur, entre guillemets, dit un peu remplaçant et t'es mis de côté, mais t'as une attitude qui n'est pas forcément positive.
Ouais. Marco, donc, supporter de l'OM qui va nous rejoindre.
On va demander à Marco ce qu'il en pense. De toute façon, c'est un tournant, Marco, ce soir.
Je pense que ce soir, en fait, bonjour les gars, bonjour.
Ouais, bonsoir déjà.
Bonsoir. Enfin, suivant quand le soleil se couche.
Bon, nous, il s'est pas levé, écoutez, donc à Paris. Donc, ça.
Bah, écoute, je suis désolé, moi, je suis dans les Alpes-Maritimes.
Et ça fait 35 ça jours, ça dure, donc ouais, t'en fais pas. On sait, on est dans le noir. Bon, vas-y, Marco.
Écoute, pour moi, en fait, c'est simple. Jusqu'à la fin de la saison, tous les matchs sont des tournants. Il n'y a pas un seul match qui sera moins important que les autres. Toutes les échéances sont hyper importantes. Mais en fait, je sais pas si vous en avez parlé, mais pour moi, la grande différence de l'effectif entre cette année et l'année dernière, c'est que cette année, il y a énormément de concurrence quasiment à tous les postes. Le seul qui est à peu près tranquille, c'est Greenwood. Parce que Greenwood,
Il est au-dessus des autres. Ouais.
Voilà, Greenwood, il est clairement au-dessus des autres. Maintenant, moi, ce que j'attends de Bay une bonne fois pour toutes, c'est que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression qu'il y avait des joueurs cette année qui avaient des passes droits. Moi, je pense clairement à quelqu'un comme Balerdi, cette espèce de totem d'immunité de brassard de capitaine qui faisait
de le faire jouer. Il a été un peu tensé, il a été mis de côté aussi,
ouais,
Balerdi.
Mais Marco a raison, Benoît.
Regardez, il a été tellement tensé que De Zerbi considérait que potentiellement c'était le meilleur défenseur du monde.
Oui, je suis désolé. Marco, tu as raison.
Oui, mais justement, messieurs, c'est là où est tout le problème. Moi, Il y a quelque chose qui me rend fou depuis des mois. Enfin, vous avez autour de la table tous, vous avez tous été des joueurs internationaux, tous. Steve l'a été, même si c'est qu'une seule fois
Jérôme l'a été
et coach Larquet l'a été aussi.
Ouais, un peu plus que À un moment donné,
Benjamin Pavard. On ne peut pas me dire que c'est un joueur qui est devenu nul.
Non.
C'est pas possible.
Ça, c'est sûr.
On peut pas me dire un truc comme ça. Le mec, il a été champion du monde. Le type, il a gagné la Ligue des Champions l'année dernière.
Il s'est imposé au Bayern dans un des meilleurs clubs. T'as raison.
Il a joué la finale de l'année dernière.
Le type s'est imposé de partout où il était.
Mais peut-être qu'il a du mal à repartir, tu vois. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à Marseille.
Mais Jérôme, je pense, Marco. Jérôme, tu as fait des clubs. Les gars, vous avez tous fait des clubs. Vous avez connu des changements de clubs. Vous avez tous vécu.
Oui, mais Marco, il y a quelque chose qui t'échappe. Je pense, c'est que quand tu présentes Pavard et que tu nous le présentes. Et pas lui, hein. Je parle pas de lui, hein. Benatia, Longoria, De Zerbi, en disant, voilà, on a recruté un champion du monde, un champion d'Europe, un cadeau, un international et tout ça. Il fallait juste regarder les derniers mois de Pavard. Et Pavard, pourquoi je te dis ça? C'est que le dernier match amical, de l'AS Monaco, c'était Monaco-Inter, au stade Louis II. C'était fin juillet. J'étais à Monaco, je suis allé voir le match. Pavard, il a joué une mi-temps. J'ai dit, mais mon Dieu. Il est dans un état, Pavard, mais catastrophique. Ouais, alors c'était la vérité d'un match. On est d'accord.
De là, le juger là-dessus.
Mais derrière, tu nous l'annonces comme un cadeau.
Parce qu'il a eu le CV.
Mais honnêtement, Jérôme, le tournant concernant Pavard, on est d'accord que c'était la semaine du match de Ligue des Champions contre le Sporting.
Oui.
Soi-disant, il aurait fait un mauvais match. Et à partir de là, t'as l'impression que tout le monde. Alors la presse, quelque part, c'est un peu votre travail. Mais j'ai l'impression que même au sein du club et même le coach lui est tombé dessus.
Ouais, c'est pas faux. Non mais
du Maras
mais défensif. Mais t'as raison, Marco, t'as raison. Mais derrière, regarde la réaction de Pavard. Avec autant d'expérience, tu viens de le dire toi-même. Il fait un message d'excuse sur ses réseaux sociaux. Ah bah ça, mais t'as vu ça où, toi, en fait? Ouais. T'as vu?
Bah, tu vois ça de plus dans, en plus,
dans,
Jérôme.
Dans, non, non, mais peu importe. On est à l'Olympique de Marseille. On est dans un grand club qui a des objectifs élevés, où t'as un effectif qui est conséquent, où toi, t'es un joueur qui est champion d'Europe, champion du monde. T'as rien à prouver. En fait, t'as juste à apporter ton expérience et de rester au niveau. Et le premier match où tu passes à côté, parce que bah il est passé à côté, tu fais un message d'excuse. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que t'as fait exprès d'être mauvais? Parce qu'on est pas, on a été mauvais aussi, hein. Mais quand t'es mauvais au départ, tu veux être bon.
Et il a rarement été protégé par son entraîneur dans ces moments-là. Merci Marco d'être venu au 32-16.
Et bon courage. Pour
merci
ce soir.
À Jean-Louis Tour ce soir, l'Afterlife des 20h. Un mot des conditions, Jean-Louis, qui attendent les joueurs ce soir.
Il pleut, il y a du vent.
Ouais, il y a du vent. Mais a priori, ça devrait se calmer pour ce soir. Et juste, on prendra l'antenne à 20h45 parce qu'il y a, il y a les JO, bien
et
sûr.
Et oui, l'after JO qui sera là malgré et tout. Oui. Et 20h45, tu seras là pour le coup d'envoi. Donc de, ce match entre Brest.
Me dit qu'ils ont eu l'impression d'avoir Vincent Labrune qui était arrivé. Mais en fait, c'est Jean-Louis.
Ah, pour la coupe de Jean-Louis?
Pas du tout. Je me suis coupé les cheveux.
Ouais, ça y est. Bah, il a retrouvé de l'aérodynamisme.
Il y a un indice pour faire la différence entre lui et moi, c'est que moi, je suis en seconde classe.
D'accord.
Ah bah non, okay. Mais lui c'est un avion privé. Les limites en hélicoptère à Brest.
Merci Jean-Louis, en tout cas à tout à l'heure.
Tu étais jaloux, Jean-Louis. Ah ouais.
20h45. Et dans un instant, on va parler du LOSC. On va ouvrir le procès d'Olivier Létang qui s'accroche coûte que coûte à Bruno Genesio. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On continue l'émission, on est là jusqu'à 20h. Restez bien avec nous. On a à la deuxième demi-heure avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. Le Allo Jérôme aujourd'hui sur l'Olympique Lyonnais.
L'homme au chronomètre.
Ah ouais.
Robert Duverne sera avec nous.
Le sifflet ou le chronomètre?
Ah bah, les deux, sifflet et chronomètre.
Les deux. Ouais. Il a plus sifflé, il est parti.
Le sifflet, il l'a jeté, mais il avait toujours le chronomètre autour du cou.
Ah, il l'avait, ouais. Ouais.
Il a vécu cette série historique de l'Olympique Lyonnais en 2006.
Il nous dit souvent que c'est grâce à lui.
14 victoires d'affilée. Donc il va venir réagir à l'exploit que sont en train de réaliser les Lyonnais en ce moment. 13 victoires, peut-être
une 14e à Strasbourg.
Vous m'avez perturbé.
C'est bientôt les vacances, je trouve.
Bientôt les vacances.
Bah, même pour toi. Ouais.
Même pour moi.
Susceptible, ouais. Hein,
tout à fait. Pourquoi susceptible?
Ne me dis pas qu'on va avoir François la semaine prochaine.
François Pinet qui sera là.
Non.
L'excellent François Pinet.
Non, mais il faut me prévenir que je me prépare.
Pourquoi? Ça va pas, non?
On l'embrasse, François. Mais... repose-toi, François.
Non, mais qu'est-ce qu'il est méchant, c'est fou.
Je vais encore le porter, je vais avoir mal au dos toute la semaine.
19h le multiplex et tout de suite on parle du LOSC.
RMC, Rotten sans flamme.
Quand il vous manque autant de choses individuellement et collectivement, vous pouvez prétendre à rien. Je pense qu'aujourd'hui on a touché le fond en termes de contenu.
Le procès de Rotten sans flamme.
Précision, c'était pas un son d'hier ça. Hein. C'est pas hier que Olivier Létang a dit ça. Non, c'était sur un autre match.
L'Olivier Létang.
Encore une prestation indigne donc de la part des Lillois battus 1-0 à domicile en barrage aller de Ligue Europa par l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est la 7e défaite en 10 matchs depuis le début de l'année 2026. Et écoutez bien, Bruno Genesio estime que ses joueurs l'ont peut-être lâché hier soir. Écoutez.
Alors, soit je réponds honnêtement, soit je fais la langue de bois. Comme j'ai
réponds honnêtement.
Pour la première fois, j'ai eu une impression bizarre. Parce que comme je vous le dis, tactiquement, oui, on n'a pas été bon en première mi-temps. Ça, c'est ma responsabilité. On a face à une équipe qui joue différemment de ce qu'on avait vu dans l'observation. Techniquement, on peut ne pas être bon. Par contre, il y a une chose sur laquelle je suis impitoyable, c'est sur l'esprit.
Ouais.
Ouais, donc il était vraiment gêné de ce qui s'est passé hier soir. Il n'a pas reconnu son équipe. Il est en fin de contrat en juin prochain. Et selon nos informations, la volonté du club, c'est toujours de le voir aller au bout de son contrat et de ne pas se séparer de Bruno Genesio. Alors on ouvre ce soir le procès d'Olivier Létang qui s'accroche coûte que coûte à Bruno Genesio. On a deux procureurs ce soir. Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Steve Savidan, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat de l'Olivier Létang, c'est Jean-Michel Larquet, bonsoir.
De l'Olivier Létang.
Ah oui, l'Olivier Létang.
Je ne me défilerai pas.
Ah bah on espère.
Ah bah, je sais pas comment il va le défendre.
Et un autre Steve, supporter du LOSC, va rendre son verdict.
C'est le prénom à la mode.
Salut Steve.
Salut les gars.
Salut Steve.
Sois le bienvenu Steve.
On a tout ce qui nous manque sur le plateau là. On a un goléador avec Steve.
Ouais.
Et on a un mec qui fait des bons qui faisait des bons centres. Je pense qu'il serait
Jean-Michel,
pas,
ouais.
Il serait dans l'équipe type.
Jean-Michel, ouais.
Encore aujourd'hui.
Ah bien sûr, ça c'est sûr.
Et puis ouais, Jean-Michel, bah oui.
Ah Jean-Michel, numéro 10 de légende.
Le chef d'orchestre.
Après, il n'aimait pas salir son short. Mais
chef d'orchestre sur le banc. Ça a été un grand entraîneur.
Exactement. Vas-y Jérôme. Toi, tu ne comprends pas qu'Olivier Létang s'accroche coûte que coûte à Bruno Genesio.
Écoute, oui, pour tout te dire, je comprends pas parce que les résultats parlent d'eux-mêmes et les prestations, le contenu, parce que après t'as les résultats, mais t'as surtout ce que dégage ce club aujourd'hui depuis pas mal de matchs. Hein, tu l'as dit, depuis le début de l'année, c'est catastrophique.
Et t'as eu le courage de regarder le match, toi.
Mais ouais, j'ai regardé parce que en général, j'aime bien regarder le multiplex. Ce que j'ai fait sur la deuxième mi-temps, je te cache pas, la première mi-temps a été tellement infâme que j'ai quitté le truc. Bon, le multiplex m'a pas beaucoup appelé sur le match de Lille, donc ça me rassure. Ça veut dire que j'ai rien raté. Et c'est vrai que quand tu vois les déclarations et surtout le manque d'allant de cette équipe, et c'est pas le premier match. Mais ce qui est problématique, c'est quand ça s'accumule comme ça et que un match chez toi, un match aller de Coupe d'Europe, de 16e de finale, tu sais que c'est des matchs couperets, que celui-là, il est fait pour prendre un avantage, que tu as aussi peu d'envie de la part de tes joueurs de se surpasser et d'être bon, d'être au moins au niveau de l'étoile rouge de Belgrade, qui est plus l'étoile rouge de Belgrade de 91 quand ils ont été champions d'Europe hein, contre Marseille. Donc, tu te dis, et que tu avais déjà perdu il y a quelques semaines contre cette étoile rouge de Belgrade dans la phase de mini-championnat. Là-bas, tu avais perdu en faisant un match qui était un peu plus cohérent que celui-là, celui d'hier. Donc tu te dis, cette équipe, elle a régressé. Et oui, elle a régressé. Mais elle a régressé pourquoi ? Parce que Bruno, il vient de l'expliquer. Et c'est pas la première fois.
Ça fait des semaines que tu le dis, Jérôme.
Mais moi, en fait, il y a quelque chose. C'est quand ils ont perdu
à Vigo.
Ben
oui.
Et que derrière, ils voulaient démissionner. On avait ces infos-là. Ils ont démenti.
On a confirmé les infos.
Oui, on a confirmé les infos. Fabrice avait les bonnes infos. Que derrière, donc ils nous ont menti en disant non, moi j'ai pas posé ma démission, non, on s'est pas accroché à une petite branche et tout ça. Si, à l'arrivée, il est resté, il s'est accroché à une petite branche. Donc je sais pas pourquoi il est resté, parce qu'à mon avis, ils ont pas voulu le payer et lui régler les derniers mois qu'ils avaient à lui régler, parce qu'il a un contrat qui est pas non plus de 3 ans, il a un contrat qui va jusqu'au mois de juin, Bruno Genesio.
Ouais.
Donc
ouais.
En effet, c'est là que j'attaque Olivier Létang, qui connaît très bien le football, il nous l'explique tout le temps. À défaut d'avoir été un grand joueur, c'est un bon dirigeant.
Si, c'était
Rosando. Donc, vu que c'est un grand dirigeant, normalement les grands dirigeants ils anticipent les choses. Ils ont surtout au quotidien comme ça, tu te rends compte en effet que les joueurs ils sont moins à l'écoute, que Bruno Genesio il a moins envie, et ça peut se comprendre. Encore une fois, ça peut se comprendre. Mais pourquoi tu traînes ? Pourquoi tu fais pas de recrutement ? Pourquoi quand il y a des blessures graves comme Igaman, tu cherches pas à le remplacer ?
Tu penses qu'ils sont en train de plomber la fin de saison du LOSC là ?
Ben je sais pas ce qu'ils cherchent. Et Olivier Létang, viens nous expliquer, viens expliquer aux supporters de Lille et aux passionnés de Lille, et certainement que Steve, notre juge d'aujourd'hui, il aimerait avoir une explication, parce que c'est quoi les ambitions de Lille aujourd'hui ? Si l'ambition est de finir dans le ventre mou du classement et de rien gagner, de passer
après,
pour
ils
un
sont
compte
cinquième, hein, pour l'instant. À égalité avec
ils sont cinquièmes, mais arrête et regarde le classement comment c'est serré.
Ah c'est très serré.
Donc tu perds
que 3 points d'avance sur Monaco.
Ça fait 10 matchs qu'ils ont gagné un match sur les 10 derniers matchs. Donc forcément Olivier Létang il est responsable de la situation, et en étant le président il aurait dû en effet couper la tête de Bruno Genesio et essayer de ramener du sang neuf. Non, il veut rester comme ça jusqu'à la fin pour lui éviter de donner des indemnités, mais ça va lui coûter un classement catastrophique en championnat et une fin de saison catastrophique. Et on l'a vu hein, le public maintenant tu ne leur fais pas à l'envers. Hier c'était gros sifflet, ils s'en prennent un petit peu à tout
le
monde,
on en parlera dans le multiplex,
et je pense que ça ne va pas s'arranger.
Stevie, vas-y.
Moi il y a trois choses plus un bonus hein. C'est la dynamique sportive. Franchement, t'es sur une série d'irrégularités. Tu vois pas vraiment de continuité, t'arrives pas à voir vraiment où ils vont, surtout je vais pas dire qu'ils ont pas de chance, mais ils n'obtiennent pas des résultats vraiment sur une continuité, ils n'arrivent pas à créer de série. Derrière, t'as un problème tactique. Honnêtement, il y a un gros problème dans cet effectif. T'as une défense, tu la sens fébrile.
Ouais.
Les transitions, les mecs, ils défendent mal. Ils n'arrivent pas à obtenir un pressing très haut. Il y a le projet. Le projet, on parle toujours de projet. Lille, ouais, ok. Vous voulez faire quoi vraiment? Vous voulez faire quoi de votre stade? Pierre Mauroy, vous voulez faire quoi du LOSC? On n'arrive pas vraiment à identifier le truc. Et moi, le truc le plus grave, et c'est là le bonus, c'est Bruno Genesio. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui ressent très bien le foot. C'est un super manager. Et quand il te dit en conférence de presse, vous voulez que je vous dise la vérité ou que je vous fasse un truc, mais j'ai ressenti un truc bizarre, moi, je vous dis honnêtement, ça sent pas super bon dans l'effectif, dans le groupe professionnel, dans l'ambiance professionnelle. Tu sens qu'il y a un truc. Non mais attends, c'est pas non plus tout le temps. Et c'est pas parce que c'est la mode de démissionner pour revenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que c'est une mode qu'il faut limiter. Ah, mais non, c'est aujourd'hui il y a une direction. Non mais attends, Benoît. Si tu veux, c'est qu'il y a quand même une direction. Il y a quand même une direction du club. On aimerait bien savoir où ils vont. Et puis moi, je vais finir sur quelque chose. Mon super bonus. Quand je vois Giroud hier, mais sortir du banc de touche. Mais attention, t'as Olivier Giroud hier dans un match comme celui-ci spécifiquement où je pense qu'il aurait pu être très utile sur cette première mi-temps parce qu'il aurait obtenu des fautes, il aurait eu des déviations, il aurait pesé sur une défense, peut-être pas pendant 90 minutes, mais qu'est-ce qu'ils font avec ce dossier Giroud quoi? Je me rappelle en début de saison, c'était bon Olivier, on sait qu'il a un certain âge ou un âge certain, on va l'utiliser à deux matchs sur trois, il va amener son expérience. Et quand vous voyez sa tête, Olivier, hier, qui sort du banc de touche, il se dit, mais je suis tombé dans quelle sauce?
Il dit, bah oui, Jean-Michel. Parole à la défense, Jean-Michel Larquet.
Non, mais pour...
Ça te va, Jérôme?
Ouais, très bien.
Pour pouvoir argumenter, il faut avoir le temps d'argumenter.
Bah vas-y, Jean-Michel, en fait, prends ton temps.
Je vais essayer de...
Ah ben bah non, mais vas-y, prends le temps.
Oui, bien sûr. Non, mais pour l'Olivier Létang, je vais pas vous dire qu'il a fait tout parfaitement et que c'est un total triomphe. Évidemment, comme le disait quand même, je crois que c'est tout simplement Steve qui disait, oui, vous hurlez au loup quand on vire les entraîneurs à 3 mois. J'ai entendu concernant De Zerbi, il y en a certains et notamment des consultants de renom, qui ont dit, mais pourquoi il s'en va de toute façon? Termine la saison, finit la saison. Et aujourd'hui,
ils sont pas de renom. Alors ceux qui disent ça,
c'est Lille qui a dit ça. Lille aujourd'hui, ils sont dans cette situation. Tapez l'Olivier Létang. L'Olivier Létang, il n'est pas présenté comme le président. L'Olivier Létang, il est présenté comme le directeur sportif. Et l'Olivier Létang, s'il coupe la tête de Genesio, il se coupe la tête aussi. Il est président, il coupe Olivier.
Ben oui, c'est lui qui décide, Jean-Michel.
Il n'est pas directeur sportif.
Et c'est lui qui a décidé.
Ça veut dire que Sylvain Armand décide de rien. Oh non.
Ou en tout cas, de pas grand chose. En tout cas, de pas grand chose. La saison, elle est cuite.
D'accord.
Elle est cuite.
On dit pas que c'est Sylvain Armand d'ailleurs.
Est-ce que vous avez des nouvelles de Sylvain?
Autant terminer la saison avec Bruno Genesio et l'Olivier Armand. L'Olivier Armand,
il nous a dit. Il a chuté. Il a fait une Jean-Pierre Papin. L'Olivier Armand.
Mais pour une fois comme président, garde son, alors que c'est pourri de partout, on va le saluer. Okay. C'est formidable.
Le juge Steve.
Au moins, ça nous fait rire.
J'espère que t'as souri en les écoutant, Steve. Qui remporte ce procès alors? Vas-y.
Bah, écoute, il y a un peu de vrai dans tout le monde. Sur les différentes interventions.
Toi, t'es normand, toi, t'es pas ch'timi. Hein.
Non. Du coup, moi, c'est pareil. J'ai préparé 3 trucs. En gros, c'est échec sur le mercato. Donc ça, c'est les temps. Les joueurs qui sont pas à la hauteur, parce que là, faut pas rêver. Aujourd'hui, Lille, c'est 8e, 10e place par rapport à l'effectif. Il n'y a plus aucune ambition, moi, je pense, dans le club. Donc, ni dans les transferts de une, ni dans la communication. On se prend une volée par nos voisins lensois quand ils font des prolongations spectaculaires. Nous, on prolonge notre Aradson avec une vidéo sans saveur. Le deuxième point pour moi, c'est le staff médical. Depuis 2 ans, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces blessures? Il y a une petite parenthèse aussi, je fais vite parce que je sais que ça...
Non, vas-y.
Voilà, la petite parenthèse, c'est le gardien Berkhauser qu'on appelle Game Over maintenant à Lille, parce qu'à chaque fois qu'il y a une frappe, il a but. Je suis content que ça vous fait rire, mais nous, ça nous fait pas rire.
C'est pas marrant.
Et le troisième point...
Il faudrait qu'il y ait que des pénaltys pour lui.
Ouais, c'est vrai.
Comment ?
Il faudrait qu'il y ait que des pénaltys pour
lui. Il faudrait qu'il aille faire du futsal à la limite, mais... Mais en gros, le troisième point, c'est Genesio, pour moi, qui est plus motivé à cause du manque d'ambition de la construction de l'effectif. Il n'y a pas eu son œuf non plus pendant le mercato. Donc, je pense qu'il a lâché.
Mais Steve, le fond du débat, est-ce qu'il faut le laisser aller au bout de la saison ou s'en séparer?
Et là, pour moi, il faut s'en séparer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans sa communication, il est catastrophique. Quand il dit qu'il faut revoir l'ambition du club, en gros, il le pense, mais il ne faut pas qu'il le dise. Parce que ça veut dire, en gros, écoutez, avec l'effectif et les joueurs que j'ai, on peut pas aller aux objectifs du club. Donc là, déjà là, pour les joueurs, c'est pas bon. Deuxième point, la charnière centrale, elle est tout le temps en train de changer. Donc on sait que c'est deux postes où il doit y avoir un automatisme. Alors certes, des fois, il y a des blessures. Mais la dernière fois, le match qu'on a fait à domicile contre Brest, il change encore les deux de la défense centrale. Et puis après, dernier point, Santos. Il met Boadi. Alors Boadi est bon partout.
Il met Boadi arrière droit.
Mais en fait, au niveau des joueurs, les joueurs Santos, ils doivent dire putain, c'est un milieu de terrain qui prend ma place.
Ah bah oui, oui.
Victoire à ton homonyme, Steve Savidan et à Jérôme Rotten. Alors. Ouais. Voilà.
Voilà. Bon, et dernière chose, les gars, pour moi, il faut changer tout de suite. Il reste 3 mois parce que la saison, elle est morte. Et en fait, il faut déjà préparer la saison prochaine.
Et il faut garder l'Olivier.
L'Olivier Létang, on le garde.
C'est quoi, Benoît?
De quoi, Olivier Létang?
On le garde, Olivier Létang, avec Sylvain Armand.
Les gars, je trouve.
Ah, Steve?
Ah. Oui, je peux reprendre si vous voulez. Donc Olivier Létang, faut garder.
Merci à Steve qui a rendu son verdict. Ouais. Et on suivra le match de Lille qui est maintenu à Angers. Un match qui va se disputer, mais à huis clos. Parce que vous savez, les autorités sont très occupées avec les inondations qui touchent la région. Match maintenu, mais à huis clos. On en parlera dans le multiplex avec Pierre-Yves Leroux. Dans un instant, allô Jérôme, la série impressionnante des Lyonnais avec une figure lyonnaise,
Robert
Duverne, qui sera avec nous. À tout de suite.
Hébert.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h50 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. Et ben on continue. On finit la première heure de Rotten sans flamme avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et avec Benoît Boutron. On va recevoir Robert Duverne dans un instant. Il est en coulisses, là. Il a envie de parler de la situation de l'Olympique Lyonnais. Il est avec son sifflet ou avec le chrono. Et après 19h, ben, comme tous les vendredis, vous le savez, c'est notre fameux multiplex. On va tout savoir sur la 23e journée de championnat de Ligue 1.
Et Lens Monaco notamment, est-ce que c'est un tournant pour les Lensois? On sera avec nos différents correspondants. C'est parti pour Allo Jérôme.
RMC, Rotten sans flamme.
Allo Jérôme.
Et on va peut-être vivre un moment d'histoire. Dimanche soir, à Strasbourg, face à l'Olympique Lyonnais, Lyon peut signer une 14e victoire consécutive, toute compétition confondue. Ça égalerait le record établi en 2006. Le grand OL de Gérard Houllier avec Coupé, Chris, Juninho, Thiago, Malouda, Govou, Benzema, Ben Arfa et Robert Duverne dans le staff. Il est avec nous dans le Jérôme.
Ah oui, c'est grâce à Robert tout ça. Bien sûr. Salut Robert.
Bonsoir Robert. Bonsoir tout le monde.
Merci d'être là
Robert.
C'est gentil
de nous parler de la situation de l'Olympique.
Bah ouais.
Le record, tu l'as, vous l'avez donc à l'époque. Et c'est vrai que moi, c'était les années où on jouait contre vous et on souffrait beaucoup. Comment tu l'expliques, ce record? Est-ce que pour toi, elle dégage autant de force que vous? Bon, moi, j'ai la réponse, mais je sais pas la tienne.
Non, c'est pas comparable. Je pense pas qu'on puisse parler de faire une comparaison. C'est impossible parce que le record de 2006, il était pas du tout au même moment dans la saison déjà. Mmh. Il était entre le mois d'août et le mois de novembre avec des matchs qui étaient uniquement des matchs de Ligue 1 avec la première place et des matchs de Champions League qui étaient des matchs vraiment plus difficiles que le modèle actuel. Mmh. Et alors que là, la série lyonnaise, elle est honorable, hein, elle est très bonne et elle les met dans une très bonne dynamique, mais elle n'a pas la même adversité. Il y a des matchs de Coupe de France, il y a des matchs d'Europa League, on a vu avec des scores fleuves, oui, des adversaires. Et surtout, je pense, en toute humilité, que même au niveau de la manière, Moi, j'ai vu tous les matchs. J'étais au match contre Brest. J'étais à plusieurs matchs. Et je pense qu'on n'a quand même pas non plus la même force qui se dégage par rapport à l'époque de 2006. Mais bon, je pense que c'est difficile de faire des comparaisons sur une équipe qui a été, même sur la période des 7 titres de suite, quelque part la meilleure.
Mais je rappelle juste cette première partie de saison qui avait été extraordinaire pour l'OL, parce que de août à décembre, Lyon avait fait 22 victoires, 4 nuls, une seule défaite. C'était vraiment le grand OL. Et je voulais vous interroger sur cette série, parce que c'était une équipe qui avait l'habitude de gagner. C'était le grand Olympique Lyonnais. Ça avait marqué quand même ces 14 victoires d'affilée. C'est un moment marquant de votre passage à Lyon où vous retenez surtout les titres?
Non, les titres, Moi, j'ai pas vraiment... J'ai le souvenir de... Alors, à la rigueur, je me rappelle plus de la série de Nantes qui avait été impressionnante dans le jeu.
Qui était plus
une référence pour moi, d'ailleurs. Parce que moi, cette série 14, bon, c'est l'ensemble de la saison qui est notable, plus que cette série-là. Je sais que ça, il me semble que ça s'est arrêté contre Rennes. C'est un peu notre bête noire, on perdait souvent là-bas. Mais c'était un peu, je l'ai pas en référence, quelque part. C'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Et puis, il y a tout le temps la deuxième partie de saison qui compte énormément, parce que c'est là qu'on, c'est le money time, en fait. C'est ce qu'on va chercher, vraiment. Je sais que cette année-là, on avait perdu en Coupe d'Europe. Je pense que c'était l'année où on pouvait la gagner, à mon avis. Donc, j'ai plus ça en mémoire sur cette saison-là,
Vas-y, Steve.
Ouais, Robert, Steve,
Steve Savidan. Attends, je te présente quand même. Il a joué à Valenciennes, à Caen, à...
Et en équipe de France.
Et en équipe de France.
Pour Robert, je suis une énigme. Bon, enfin bon. Donc, j'étais avec Siné et en préparant le sujet, bon, forcément, t'imagines que j'en ai parlé. Et j'ai un message à te passer pour lui, de lui, pardon. Donc, première chose qu'il me disait, c'est que déjà, t'avais des gros internationaux à pratiquement tous les postes. T'avais pas de blessure. Ça bossait, et ça revient au premier sujet de l'émission, ça bossait dur et fort. Alors, ça bossait bien.
J'étais un peu fou.
T'avais pas de blessure.
Ça, je te confirme.
Et ça marchait bien. Donc, ça, qu'est-ce que tu avais mis, toi, en tant que travail? Moi, je le sais, mais quel travail, si tu pouvais nous expliquer, qu'est-ce que t'avais mis dans ton travail de pré-saison? Parce que, comme tu le disais, votre record, c'est en début de saison, ou en tout cas dans la première partie. Donc, qu'est-ce que tu avais fait pendant cette préparation? Parce qu'on se rappelle quand même que Lyon, c'est pas qu'une seule année. C'était des années à répétition quand même. Et la dernière chose, c'est qu'il attend ton appel pour aller à la pêche.
J'ai vu dans son émission là sur Lille que c'est un grand pêcheur.
Donc, qu'est-ce que tu avais mis en place, toi, pour la pré-saison, justement, pour attaquer très fort?
On avait des phases de pré-saison sur le foncier qui étaient énormes. Bon, après, je veux dire, on se travaillait même le mois d'août parce que on savait que les échéances allaient commencer en septembre. Donc, c'est vrai qu'on avait quand même, sur cette saison-là, on n'était pas sur une saison où il y avait des compétitions internationales. C'est la saison d'après que les joueurs sortaient pour la Coupe du Monde, que j'avais fait aussi. Donc, je sais que là, on avait vraiment eu du temps pour travailler et ce qui nous permettait de tout mettre en place. Et après, on avait aussi des joueurs qui avaient des qualités exceptionnelles parce que c'est bien beau de faire des préparations, mais les préparations, elles marchent bien et elles marchent encore mieux quand les joueurs ont des qualités exceptionnelles aussi.
Vous n'avez pas de blessures?
Les blessures, elles arrivent toujours par la suite. Les blessures, c'est important. C'est vrai que on parle beaucoup aujourd'hui de prévention, mais bon, plus on rapproche un joueur de son pic de performance, plus on a des chances de blesser aussi. C'est un cercle vicieux ou vertueux. Et bon, on était dans une telle dynamique, on avait un effectif qui était doublé à tous les postes et des. Tout va bien,
c'est correct. Mais Robert, moi j'ai senti dans votre intervention sur la série actuelle que vous nous faisiez part de votre regard et vous disiez il y a pas mal de réussite quand même dans les matchs récents de l'Olympique Lyonnais.
On l'a dit, ça.
Donc vous vous dites que ça va s'arrêter à un moment ou à un autre, quoi.
J'espère que ça va pas s'arrêter contre Strasbourg, qui va être un très bon test parce que Strasbourg a une façon de jouer très offensive et alors comment ça va se contrecarrer avec le jeu lyonnais, ça c'est une énigme, mais ça va être très important. C'est un très bon test. C'est un très bon test. Strasbourg a montré des choses vraiment très très intéressantes, même si dans la formule, je peux critiquer parce que je suis pas fan d'avoir une équipe réserve dans notre championnat. Mais c'est un autre débat. mais aujourd'hui ce qu'il propose dans le jeu, on peut être qu'admiratif, et ça va s'opposer au jeu des Lyonnais. Donc
bah ça, ils le maîtrisent bien, les Lyonnais, hein. C'est vrai que tu faisais référence au match que tu as vu contre Lille ou contre Nice.
J'ai vu beaucoup de matchs, le match contre Brest par exemple, ouais. Mais il y a eu des faits de jeu, il y a des faits de jeu, donc tout s'articule bien pour l'OL.
Ouais, c'est vrai, ils ont les planètes sont
le
bien alignées.
Le match contre Nantes, au point, pour moi, c'est Nantes qui le gagne.
Ouais, ouais.
Au point, bah, c'est Lille, Nantes qui le gagne. Hein. Et au score, c'est l'OL qui le gagne.
Le match de Lille, pareil.
Le match de Lille aussi, le match de Nice.
Nice n'a pas démérité.
De Laval, ouais, ouais. De France,
c'est pour ça que c'est un peu sur la tangente quand même. Le match contre Brest, on a un défenseur de Brest qui va nous faire n'importe quoi. Et le match, il bascule là-dessus. À la 35e minute, il n'y avait pas eu un seul tir encore.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais, exactement.
Et Robert, c'est justement parce que c'est sur la tangente que, peut-être, d'abord, je remarque que, ils travaillaient très dur, les joueurs, avec toi. Ils avaient toutes les raisons de faire grève. Ils n'ont pas fait grève, et c'est formidable, Robert.
Ouais, c'est vrai.
Ça, c'est très bien. Mais tu dis qu'ils sont, toujours sur un fil, et évidemment, je partage cet avis, cette opinion. Peut-être qu'ils n'en ont que plus de mérite, Robert, finalement, parce que allez, on va refaire un tout petit peu l'histoire et savoir d'où ils viennent et où ils étaient au mois d'août dernier, quoi, les Lyonnais. Il y a quand même, il faut leur reconnaître énormément de mérite d'être là.
Bien sûr.
C'est un peu comme quand ils sont partis de la dernière place avec Pierre Sage et que les résultats d'un coup ils se sont inversés. On a plus rien à perdre, en fait. Ils étaient dans, alors que c'est maintenant, peut-être que c'est avec le juge de paix, parce que maintenant ils ont tout à perdre. Alors c'est ils vrai. Étaient dans bien sûr, on va rentrer dans le Money Time où petit à petit ils auront tout à perdre. Ce match en Coupe d'Europe, ce match en Coupe de France contre Lens, ce match-là qui va les rapprocher ou les éloigner des objectifs qu'on s'était pas donné au début.
Les grandes échéances arrivent. Merci Robert Duvern d'être venu.
Robert, merci en tout cas.
Merci beaucoup.
Allez,
merci
beaucoup. À bientôt. Hein, de toute façon.
Bien de partout au Bénin et du côté de Saint-Jean-de-Luz aussi.
Oui, merci.
C'est gentil, Robert. Merci, Robert.
Allez, salut, Robert.
Allez, dans un instant, le multiplex. On va lancer la 23e journée de Ligue 1 avec nos correspondants. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
RMC 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h03 sur RMC. On est là dans Rotten sans flamme. C'est la deuxième heure de Rotten sans flamme. On va se régaler vraiment encore avec nos correspondants. On va lancer la 23e journée de championnat de Ligue 1. On est avec Benoît Boutron, avec Jean-Michel Larquet et avec Steve Savidan. On a passé une bonne première heure. Vraiment, c'était génial.
Super.
Voilà, on est un peu en avance. J'ai dit 19h03, il est 19h02. Hein, je suis désolé. Donc, voilà, Benoît, deuxième heure, fantastique.
Je livre une coulisse parce qu'on est un peu en retard. Notre producteur lui dit ne dis pas l'heure. Il démarre, dit l'heure.
Mais j'ai pas dit la bonne.
Oh, c'est incroyable. Le dernier quiz de la semaine, soyez en forme. Hein.
Mais les jeunes ne savaient plus lire l'heure.
C'est vrai, t'as vu ça ? Avec les écrans digitaux, les jeunes ne savent plus lire l'heure une horloge à aiguille.
Ah bon, mais ils savent le lire quand.
Quand même, horloge digitale.
Ça dépend des jeunes quand même.
Ça dépend des jeunes, mais c'est une priorité dans la vie de savoir lire l'heure.
Mon fils, il a 11 ans, il sait lire l'heure.
Bah, tant mieux. Le cadeau, c'est une enceinte portable de la marque française Muse. Très beau cadeau. 60 watts de puissance et des effets lumineux, donc 32-16 touche 4 ou quiz au 7-32-16. La tradition du vendredi, c'est le multi.
Allez,
la fin. RMC, Rotten sans flamme.
Et voilà égalisation de Jean-Michel Larquet. Sur ce coup franc, un but extraordinaire de pureté.
Savidan qui va frapper en force. Savidan Oh, le but de Steve Savidan. Le doublé. Quel coup franc de Savidan.
Faut pas frapper, Rotten. Ne frappe pas. Il frappe quand même. Et Bilou
lancement de la 23e journée de Ligue 1. Ah bah là, on pourrait déterminer lequel est le plus beau.
Le mien, je sais pas. Le mien, c'était un Nice-Bastia.
Ouais. Ah, au Stade du Ray.
Au Stade du Ray. Donc, je peux te dire que l'ambiance était incroyable. Et face à la tribune Nord. Oh, qu'est-ce que c'était bon quand même.
Tu as fait un cœur.
Valenciennes-Marseille. Alors, t'imagines un VAOM.
Ouh.
Ah oui.
Ah ouais, VA,
ça a aussi de l'impact.
Ah ouais,
ok,
ouais,
oui, j'imagine. Ouais. Et toi, Jean-Michel, c'était contre qui ce coup franc ?
Contre Béziers, non ?
J'en ai marqué tellement que je peut-être en demi-finale de la Ligue des Champions, peut-être.
Ouais, ça va. Ouais, c'est ça.
toujours plus.
Non, c'est plus. Non, celui-là, c'est Mont-de-Marsan.
Non.
Non, mais
ah non, c'était le Racing Paris en 49, apparemment.
Pourquoi toujours plus ? Parce que j'ai pas marqué en demi-finale de la Ligue des Champions.
Mais si.
Un coup franc. Si, si.
Ah si, mais si, malheureusement, on se souvient surtout de la finale et des poteaux carrés. C'est toujours le même problème.
Ouais.
Allez, accueillir nos correspondants.
Ah bah, il était beau quand même.
Pierre-Yves Leroux est là. Salut Pierre-Yves.
Ah, Pierre-Yves.
Bonsoir à tous.
Salut Pierre-Yves, ça va ?
Ça va très bien. Bon. Bien sûr, ça va très bien.
Maxime Tilliette est là. Salut Maxime.
Salut Maxime. L'équipe, bonsoir à tous.
En pleine forme, Maxime.
Et tu l'as réclamé, Jérôme. Jean Baumel est là, salut Djibo. Oui.
Salut Djibo. Salut Jérôme, Jean-Michel, Steve et bonsoir tout le monde.
Eh oui, parce que c'est la belle affiche de cette journée. Demain, 17h sur RMC, Lens Monaco à Bollaert. Lens leader, un point d'avance sur le PSG qui jouera un peu plus tard, un PSG Metz demain soir à 21h. En face, on a Monaco qui affronte donc le leader entre les deux matchs de barrage de Ligue des Champions. On rappelle que Monaco a perdu contre le PSG à Louis II. 3-2 après avoir mené 2-0. Monaco est 8e de Ligue 1, à 3 points du top 5. Djibo, parle-nous de Lens, de l'actu lensoise et de cette date qui obsède les Lensois, le 12 avril, la réception du Paris Saint-Germain.
Alors, c'est le week-end du 12 avril, parce qu'on sait
c'est
pas.
C'est le week-end
encore.
Du 12, t'as raison.
Si Paris est encore qualifié en Ligue des Champions, bah, ça sera, a priori, ça sera pas le dimanche, parce que Paris joue le mardi ou le mercredi. Mais c'est vrai que, j'ai posé la question à Pierre Sage que la défaite de Paris à Rennes et puis le match un petit peu compliqué où ils ont été menés par Monaco, est-ce que ça donnait, un petit peu plus d'espoir dans l'état d'esprit des Lensois pour viser le titre?
Nuancerait quand même la position par rapport au PSG, parce que même mené 2-0, même en loupant un pénalty, ils ont été capables de l'emporter. La performance de retourner un match comme celui-ci en revenant à 2-2 avant la mi-temps en ayant loupé un pénalty est déjà de haut niveau. Et à partir du moment où elle est dans la décision de l'emporter, elle fait tout ce qu'il faut pour le faire. Pour l'instant, on s'attache à préparer notre match à Monaco. Si toutefois on arrive à enchaîner dans cette même logique tous les matchs qui vont précéder le peut-être rendez-vous du 12 avril, à ce moment-là, on se tournera vers ce rendez-vous-là. Et l'idée, c'est évidemment d'être compétitif à ce moment-là et d'avoir quelque chose à jouer à ce moment-là.
Donc ce qu'il faut, tu l'as retenu, Jérôme,
c'est
d'être en position de passer devant, de rester devant le Paris Saint-Germain le week-end du 12 avril.
Il m'a endormi, je te le dis tout de suite. Il m'a
perdu. Mais t'as vu, il n'y a pas longtemps, à la mi-temps, il est pas pareil dans le vestiaire.
Et même Adrien Thomasson nous l'a dit sur RMC dans l'after. Il a dit, il a des discours motivants.
C'est sa force, parce que les équipes adverses, elles l'écoutent parler, et là, elles s'endorment, et paf.
Tu sais, il y en a un qui était comme ça et Steve l'a connu.
Qui
Daniel Leclerc, qui était très calme sur le banc et je pense qu'il pouvait pousser des gueulantes dans le vestiaire, mais le calme de Sage et de Leclerc, le parallèle.
Il était aussi chiant en conf de presse, en communication.
Daniel.
Je trouve qu'il avait un peu plus de gaz.
Il était plus pince sans rire, mais il est pince sans rire aussi.
Vous êtes dur, Pierre Sage.
Mais c'est pas grave. On parle foot là. Je le taquine sur sa communication. C'est vrai qu'il a une voix. Moi, elle m'endort. Mais peu importe. Après,
les joueurs sont transcendés.
Ça n'endort pas ses joueurs et c'est l'essentiel.
Pas 17 victoires en 22 matchs.
C'est pour ça, Djibo.
Tu te permets de le taquiner. Je pense qu'il le prend pas mal.
Heureusement encore. Depuis maintenant, je pense qu'il connaît.
Bienvenue dans Rotten sans flamme d'ailleurs.
On parle quand même de ce match contre le PSG, mais c'est quand même pas tout de suite. Entre temps, tu auras quand même donc demain après-midi d'ailleurs. Si Lens gagne contre Monaco, ça sera le record historique du nombre de victoires consécutives à Bollard. Là, on est à égalité avec 10, comme avec Francaise en 2022-2023. 11 victoires consécutives à Bollard, ce n'est jamais arrivé. Donc on verra ça demain après-midi.
C'est incroyable ça.
Et après, tu auras avant le PSG quand même un déplacement à Strasbourg. Il y aura Metz, il y aura Lorient, Angers. Un derby contre Lille quand même la semaine précédente. Donc c'est pour ça que
vu l'état de ton club
Ah bah écoute, tu sais, un derby, le problème c'est que là tu retrouves ta motivation quoi qu'il arrive.
Oh là, on part de loin Lille quand même.
Et ils finissent à Lyon, ça c'est un mauvais souvenir en 2002 puisque à Lyon, ils avaient perdu un titre qui mais Djibo, tenez le, tendez les bras.
Djibo, sans parler du calendrier, parce que on peut tirer tous les plans sur la comète qu'on veut et se projeter à 7-8 journées. Mais là, le match de demain, pour moi, c'est un vrai tournant.
Alors, tu sais quoi, on en parle dans un instant.
Ah bon?
Après les infos monégasques avec Maxime Tilliette.
À noter, vite fait, Sangaré, on a eu le groupe tout à l'heure, est vraiment forfait. Bulatovic, Ouaïdara. Baïdou, bon, c'était dans les tuyaux, il sera pas non plus dans le groupe demain.
Ah bah, deux infos importantes. Oui, Max, on voulait faire un point sur l'état des Monégasques, la digestion de ce match particulier en Ligue des Champions mardi. Ils menaient 2-0, ils ont même eu la chance de stopper un pénalty raté par Vitinha, et malheureusement ils ont perdu ce match.
Ouais, le terme est bon, hein, digéré, surtout physiquement, parce que ils ont beaucoup couru derrière le ballon en première période et aussi énormément en seconde période en infériorité numérique. Donc déjà hier, pas mal de joueurs étaient au repos, entraînement léger en salle plutôt que sur le terrain, à Cliouche et Zakaria notamment. D'ailleurs, le Suisse sera présent demain, il était incertain. En revanche, Marnes à Cliouche sera absent du groupe. Il est ménagé pour aussi soigner un petit peu sa gêne à la hanche. Et puis il y a deux autres absents, c'est Vanderson et Golovin qui sont suspendus. Mais ça commence un peu à tirer la langue, hein, forcément, à Monaco, qui a déjà joué 9 matchs de plus que Lens cette saison. Le tout avec un effectif parfois limité, une infirmerie qui tourne à plein régime depuis un petit moment. Mais bon, sportivement, ça va un petit peu mieux avec ces 7 points pris sur 9 en championnat, ce qui permet de revenir à 3 longueurs de Lille et Rennes, les 5 et 6e. Et d'ailleurs, Sébastien Pocognoli en a parlé. Il croit encore à ses places européennes.
J'essaie toujours d'être le plus ambitieux possible. J'essaie aussi d'être stable par rapport aux ambitions, parce que parfois, si on est hors de la réalité, on peut aussi perdre la confiance des gens qui nous entourent. Mais je pense que l'optimisme et vouloir faire le maximum pour viser le plus haut n'a jamais dire sacrifier quelque chose de positif ou de négatif. Je pense qu'il faut rester cohérent. Je pense que si on est cohérent, on a encore une chance de se qualifier pour le football européen. Donc mon mot d'ordre, c'est d'y croire le plus possible.
Ouais, donc il y aura ce match très important là à Lens, mais il y aura forcément dans les têtes le match retour face au Paris Saint-Germain mercredi, parce qu'il y a finalement qu'un seul petit but de retard, et ils peuvent encore se dire que tout est possible.
Bon, ce sera dur, hein, mais on suivra ce match sur RMC mercredi avec un Rotten sans flamme en direct du Parc des Princes. D'ailleurs, je vous l'annonce. Lens Monaco, est-ce un tournant donc pour les Lensois? Toi, tu te dis c'est pas si facile que ça pour les Lensois demain, alors?
Non, c'est pas si facile que ça. Alors, si tu regardes juste, c'est factuel, tu regardes les dernières perfs de Monaco à l'extérieur, tu dis que c'est catastrophique et que Monaco, même s'ils ont pas perdu à Nice, qu'ils ont pas perdu au Havre, franchement, quand tu vois les prestations à l'extérieur, le fait de pas avoir gagné depuis le mois d'octobre à l'extérieur un match de Ligue 1, d'avoir pris souvent des branlées à l'extérieur, je suis désolé du terme, mais des fessées.
Ça va que Max commande qu'à domicile.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Monaco, bien sûr, montre à travers ce parcours-là que c'est une équipe moyenne cette année. Et il est là le problème. Après, ça reste quand même une équipe qui participe à la Ligue des Champions, donc qui sait élever son niveau par moment. Alors pas suffisamment, en effet, et surtout à l'extérieur, je viens de vous le dire. Mais elle est capable d'évoluer à un très bon niveau quand même. Alors est-ce qu'ils seront dans cette configuration-là demain? Je le sais pas. Et même son entraîneur, il est sceptique, parce qu'il sait pas comment ses joueurs vont le manger, parce qu'il y a un vrai problème d'état d'esprit dans ce groupe à Monaco. Il y a des bons joueurs, je dis pas des grands joueurs, des bons joueurs, mais ils ont par moment pas appuyé sur le bon bouton, tu vois. Et donc en effet, Lens. En se disant, ça va être un Monaco du style le match à Nice ou le match au Havre à l'extérieur, ou toutes les défaites là que je viens de citer, je pense que Lens va gagner. Et même en préparant le match, en se disant, ouais, bon, ça va, on joue Monaco qui est huitième au classement, ils sont largués, ils ont rien. Voilà. Par contre, en effet, si Monaco évolue à un bon niveau, vaut mieux que Lens se dise ce match demain.
Il est très dur.
Il est très dur à gagner, et ça fait partie des tournants de la saison. Ouais. Parce que si demain ils gagnent, ils battent déjà un record, Djibo, il vient de le dire. Ouais. Et c'est pas anodin. Ah, bien sûr que c'est pour les chiffres, le record, ils s'en foutent, peut-être que l'année prochaine ou dans 10 ans, les joueurs qui l'ont fait, ils s'en souviendront pas. Ouais. Mais par contre, ça sert dans la confiance que t'as au stade Bollaert de conquérir ce stade, d'avoir les supporters qui y croient, d'autant plus parce que t'auras une journée de passé encore, il en restera plus que 11 derrière, et ils vont croire, et on sait pas. Bon, le PSG a la chance de recevoir Metz demain, donc je pense qu'au contre Metz ils vont pas se rater. Donc il y aura toujours ce petit écart si Lens gagne d'un point, ouais. Mais quand même c'est bon signe, tu gagnes une journée de plus.
Tu bats et, un gros.
Et, ouais. Et je pense que très honnêtement, avant de se déplacer à Strasbourg, qui sera pas un match facile, et puis d'aller à Lyon en Coupe de France, ouais. Où c'est quand même deux objectifs aussi qui vont arriver très vite, c'est vaut mieux bien démarrer ces matchs tournants. Et celui-là demain, vraiment, j'y crois. Je crois vraiment que c'est un match tournant. S'ils n'arrivent pas à le gagner,
t'auras des doutes. Tu diras
oui, parce que derrière, tout le monde dira ah ça y est, le PSG repassé devant. Puis le déplacement à Strasbourg, il est périlleux. Et c'est vrai parce qu'à Strasbourg, il y a beaucoup d'équipes qui ont pris le bouillon, à commencer par le PSG, même c'est s'ils vrai. Sont imposés. Donc ça sera compliqué. Puis après, il y aura le déplacement Coupe de France. Ah ça y est, maintenant ils sont dans le dur. Et peut-être qu'on parlera plus de titre. Ouais. Et moi, ça serait triste de s'arrêter là.
Jean-Mi, est-ce que c'est un tournant?
Ouais, c'est tous les matchs là. D'abord, l'histoire du record là où battu, je n'y crois pas. Je pense que c'est le cadet de leurs soucis.
Oui,
c'est
bah,
le cadet
bien sûr.
De leurs soucis. Ouais. Ça, je pense. Ouais, il nous est arrivé de battre des records avec mon club. Mmh. On l'a su après. Hein, ouais. Mais c'était quand on jouait.
Record collectif, tu t'en souviens pas. Pff.
Ben bah oui, c'est ça.
Les records de passes décisives, tu t'en souviens, oui.
Ah,
surtout toi.
C'est pour en arriver là.
Simplement, il y a quand même, et tu l'as, je sais pas qui est-ce qui en parlait, si c'était Jibo ou toi, Jérôme.
Bon, ça doit être moi,
ça va se jouer sur l'état d'esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, entre des Lensois remontés comme des pendules, à Bollard, et qui prennent goût à la place qu'ils occupent, et l'AS Monaco, qui alterne, parce que le 3-2 contre le Paris Saint-Germain, je le répète, le ballon, ils l'ont quand même pas beaucoup vu, hein, les Monégasques.
Ah, c'est Max qui disait, ouais. Ah, oui, beaucoup couru. Ouais.
Ça a été quand même un bon petit 20 km pour les Monégasques. Ils ont pas touché le ballon.
Est-ce qu'ils ont avalé la trompette?
20% de possession.
Oh, bah c'est pas
ils ont avalé la trompette.
C'est pas la trompette, c'est l'orchestre entier qu'ils ont avalé.
Je pense qu'il y avait été l'orchestre. Je pense
la grosse caisse avec.
Ils ont même bouffé le chef d'orchestre, je crois. Ben, oui. Non, mais c'est une équipe quand même qui, on le sent, moralement, on ne peut pas prendre exemple sur elle. Enfin,
c'est sûr.
J'ai le sentiment quand même que se faire violence pour les Monégasques, c'est pas dans leur ADN, ouais, voyez-vous.
Non, c'est sûr.
Et je pense que dans ce match-là, celui qui se fera le plus violence, je mets plutôt un petit billet sur
Lens que sur les Monégasques. Voilà. Exactement. Voilà.
Steve.
Bah, de toute façon, on voit très bien que Lens est habité par une mission qui est au-dessus d'un objectif. Lens, voilà, est sur des résultats, des contenus de match, des attitudes. Honnêtement, ça serait pas dégueulasse un champion de France comme ça. Franchement, faut se le dire. Ils ont vraiment. Non, mais c'est parce que ça serait pas dégueulasse, tu vois. Ça serait vraiment un beau champion. Ils font une saison incroyable. Et puis on l'a dit, mais c'est surtout ce qui dégage. On a des joueurs, on a Flotovin, on voit une nouvelle jeunesse de sa part, on voit un Allant, on voit un effectif qui monte en puissance. Alors, où est-ce que va être leur plafond de verre? C'est un petit peu le problème. C'est qu'on sait pas trop vraiment.
Pour l'instant, ils l'ont.
Tu vois ce que je veux dire?
On voit plus ou moins où il est. C'est que les matchs à haute pression sur les déplacements, que ça soit à Paris ou à Marseille, par exemple, pour l'instant, ils ont pas fait des gros matchs. Non, mais c'est vrai.
Ouais, mais c'est parce que
ils ont battu Marseille à Bollard. Ils ont battu Lille.
T'as aimé le match à Marseille? T'as aimé le match au Parc des Princes?
Ce qui est intéressant, c'est le rebond derrière. Moi,
c'est sûr.
Tu perds à Marseille et psychologiquement derrière, là, t'es sur quelle victoire? Tu perds pas le fil.
Jibo, ce que je veux dire, c'est que ces matchs-là. Outre le fait que l'adversaire peut évoluer à un meilleur niveau, donc là il faut monter son niveau.
Ils ont
eu du mal. C'est que les matchs.
Erreur de compo sur Marseille de la part de Pierre Sage qui s'est expliqué, qui a dit oui, j'ai pas été bon en mettant Aguilar côté gauche.
Il avait appelé De Zerbi juste avant, donc De Zerbi lui avait donné des clés, mais c'était pas les bonnes.
Est-ce que c'est une erreur?
C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit.
Les gars, est-ce que c'est une erreur de se focaliser sur le week-end du 12 et ce fameux Lens PSG? Est-ce que on y est, c'est trop tôt?
C'est une erreur. Non, mais ça c'est un truc de médias, ça. Mais tu crois
que c'est un truc de journaliste?
Ils le disent. Mais ils le disent. Nous, on les force pas à aller à le dire.
Mais non, mais comment? Et t'as tout un mois de mars à faire, les gars.
Ah ben Pierre Sage l'a dit. Il a dit on verra, on fera le point ce week-end-là si on est encore dans la lutte.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils y pensent aujourd'hui.
Si, ça veut dire qu'ils étaient obsédés par ce match.
Mais non, ça veut dire.
Le tournant, vous ne pensez pas que ça peut être ce match-là. On saura. Psychologiquement, si Paris tape Lens et qu'ils prennent 4 points d'avance.
Mais ce tournant,
non,
mais
Djibo,
dans un mois, tu ne sais pas où on sera.
Je sais, mais Paris à la Ligue des Champions entre temps.
Djibo, si tu perds demain ou tu ne gagnes pas contre Monaco, que Paris gagne, parce qu'ils vont gagner contre Metz. Derrière, le week-end d'après, tu vas à Strasbourg, tu gagnes pas et que Paris gagne. Tu crois que tu penseras au match, la réception de Paris? Non, parce que tu penseras déjà à conserver ta deuxième place, voire la troisième, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est trop tôt. Et bien sûr qu'ils en pensent pas, ils pensent pas à ça, les joueurs. Du moins, s'ils pensent que, il y aura une finale le 12 avril, ou le week-end du 12 avril. Ouais. Voilà, bah franchement, c'est
tu finis à Lyon, il faut l'oublier, hein, parce que Lyon, tu auras le dernier match quand même à Lyon pour la dernière journée.
Mais
vous pouvez souvenir d'ailleurs pour les lancements.
Alors, si on se 2002. Projette pas au 12 avril, on va pas se projeter à la dernière journée.
Écoute, si tu te projettes à la dernière, imagine la dernière journée, parce qu'aujourd'hui, vu comme ça, bien sûr que c'est un déplacement compliqué, mais déjà, on connaît pas le classement de Lyon, à la fin de saison, mais imagine Lens est devant au classement, et il faut aller s'imposer absolument.
Ah oui.
Bon, je mettrai une petite pièce.
Lyon a besoin de s'imposer pour rester troisième.
Voilà. je mettrai une piécette sur Lens.
Non, mais c'est, en tout cas, le scénario de voir ce match du week-end du 12.
Mais tout le monde le veut. Nous les
Lens
premiers.
Lens PSG, bien sûr. Ce serait
on espère avoir un week-end
scénario.
À la suspense, évidemment.
Déjà, il y aura le derby du Nord avant.
Ouais, une semaine avant.
Exactement. Allez, 19h22 sur RMC, le tour des stades dans le multiplex de Rotten sans flamme. Démarrons par Pierre-Yves Leroux.
Ah ouais, Pierre-Yves.
Avec cette décision, Pierre-Yves, on va maintenir Angers-Lille, mais à huis clos.
Et oui, exactement. Vous savez que c'est compliqué hein, du côté d'Angers avec les inondations. Donc il y avait vraiment de la part du préfet du Maine-et-Loire le souhait de reporter ce match. Les deux clubs souhaitaient jouer, mais ne connaissaient pas forcément les modalités. Et puis finalement, la LFP a tranché pour ce huis clos. Donc parce qu'en fait, la principale inquiétude concernait les accès pour les supporters et puis l'utilisation des forces de l'ordre sur les zones inondées. Pour un report, en fait, il fallait que le match ne puisse vraiment pas se tenir. Résultat, eh bien pour le SCO d'Angers, c'est une perte financière de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Ah ouais.
Et Jérôme Negroni, le directeur général du club qu'on a eu du côté de RMC Sport tout à l'heure, expliquait il y a quelques minutes, c'est la double peine financière et sportive parce que les supporters ne seront pas là pour pousser derrière leur équipe. Donc, le club étudie aussi les dispositifs financiers compensatoires qu'on va mettre en place pour les fans.
C'est vrai.
En tout cas, ce sera un match à huis clos.
C'est vrai que c'est une drôle de décision. Huis clos, on maintient le match.
Complètement con.
Sans supporters. Ouais, mais les gars, il y a quand même des choses, les forces de l'ordre, là, c'est quand même plus utile.
Ah, mais on est tous d'accord, mais pourquoi pas le reporter?
Dans ces cas-là, tu le reportes si tu peux pas.
Oui, mais parce que tu sais
en Coupe de France, par exemple.
En plus, ouais, t'as raison.
Bah alors, franchement, à huis clos, on en a eu assez des matchs pendant le Covid à huis clos. On sait ce que ça donne.
C'est une catastrophe, ces calendriers. Il n'arrive pas. Enfin, je sais pas qui est-ce qui est à manœuvre, mais c'est.
Il y a Jean-Louis Tour. Vincent Labrune.
Jean-Louis Tour. Il dit ça parce que c'est la même coupe de cheveux. On embrasse Jean-Louis qui prendra la main à 20h45.
Même.
Maxime Tilliette, comment va faire Nice sans Eli Wahi alors? C'est ça l'inquiétude.
C'est la grande question. Hein, et
comme ils en font pour 6 mois.
c'est le risque en effet, parce que c'est
avec
vrai que Wahi.
Carlos.
Wahi, il est rapidement devenu le danger numéro 1, de par son profil, son adresse devant le but, son instinct. Mais voilà, l'entorse de la cheville va l'éloigner des terrains plusieurs semaines. Et tu parlais, Steve, de Kevin Carlos. Il arrivait contre 6 millions d'euros l'été dernier, mais il ne met pas un pied devant l'autre, seulement 2 buts en
parce
quasi.
Parce que les deux pieds, c'était 12 millions.
Le plus probable, c'est que Mohamed Ali Chow retrouve une place axiale comme c'était le cas face à Lyon en cours de rencontre. Et puis derrière, il y a des jeunes qui, sur les côtés, notamment Kyle Boudache et Gabin Bernardo, auront un peu plus de temps de jeu et l'opportunité de se montrer, mais ça va devoir un peu tout réorganiser.
Et puis Djibo, parle-nous de la colère qui monte chez les supporters lillois. On vit très mal cette mauvaise série et une nouvelle fois cette défaite hier en Ligue Europa.
En tout cas, ils pourront pas crier de Genesio démission à Angers puisque c'est à huis clos. Ouais. Non, c'est vrai que ça devient tendu avec les supporters. On l'a vu hier, le non-match des Lillois. On va rappeler une victoire seulement en 10 matchs, toutes compétitions confondues, seulement 2 points sur 18 pris en Ligue 1. Et hier, ça a bien grondé. Bruno Genesio donc a été secoué aussi verbalement par les supporters. Et dans cette tristesse de résultat, quand on regarde le classement, Lille est encore cinquième, donc il y a encore de l'espoir. Mais il va falloir réagir vite parce que le Lille-Nantes de dimanche prochain risque d'être très tendu s'il y a défaite à Angers et si forcément pas de qualif, ce qui semble probable, contre l'Étoile Rouge de Belgrade.
Et justement, on parle de Nantes dans un instant avec Pierre-Yves Leroux, Ahmed Kantari déjà sur la sellette. Info JR25 à venir aussi, un autre entraîneur de Ligue 1 est en danger. Restez avec nous, Roten sans flamme jusqu'à 20h avec nos correspondants, avec Jean-Michel Larquet, Steve Savidan et Jérôme Roten jusqu'à 20h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h30 sur RMC, on est là dans Roten sans flamme. On finit l'émission, la dernière demi-heure de Roten sans flamme de ce vendredi soir. Veille de vacances sur la région parisienne. Donc on est là, on est bien avec Jean-Michel Larquet, avec Steve Savidan et Benoît Boutron. Dans 15 minutes, ça sera le quiz pour finir la semaine en beauté avec Louis Gervier, un super cadeau à vous faire gagner.
Ouais, une enceinte portable de la marque française Muse, 3216 touche 4 au quiz par SMS au 73216.
On continue les petites dernières infos pour la 23e journée de championnat de Ligue 1.
Avec nos correspondants Jean Baumel, Maxime Tilliette et Pierre-Yves Leroux pour parler de cette forte tension sur le FC Nantes, réception encore du Havre dimanche à 17h15, encore et toujours. Et ouais, on a l'impression de se répéter.
C'est un problème d'entraîneur.
Ah bah justement, on va en parler. Nantes avant-dernier, 5 défaites de suite, le Havre 13e, ça va mieux pour les Havrais avec 2 victoires d'affilée. Grosse pression, Pierre-Yves, autour d'Ahmed Kantari. Il est arrivé seulement le 11 décembre, il a succédé à Luis Castro. Est-ce qu'il résisterait à une défaite, à ton avis? Est-ce que tu as des infos?
Surtout, je vais vous annoncer un futur record, peut-être. Je sais bien que les joueurs, vous le disiez tout à l'heure, on s'y attache pas. Mais là, Nantes va vers un record égalé, en tout cas. 6 défaites consécutives, c'est arrivé une fois dans l'histoire du club. C'était en 99.
On s'en rappelle pas.
Et c'était avec Reynald de Noëx, qui sera champion un an et demi plus tard. Donc, c'est une autre époque où on laissait du temps au coach. Depuis, il y a eu 30 entraîneurs. Hein. Donc, après 8 matchs au banc et une seule victoire face à l'OM, bah ouais, on se demande vraiment si Ahmed Kantari pourrait être là pour la fin du championnat. Je ne peux pas vous les faire dans l'ordre, je peux vous en citer quelques-uns.
Jean-Michel fait le quitta circus, là, c'est pour ça.
Non, mais Ahmed Kantari, aujourd'hui, c'est le pire bilan de l'histoire des entraîneurs du club. Hein. C'est pire que Domenech quand il était passé.
Non, bah, comment il a.
Parce qu'il y avait eu des matchs nuls. Il y avait eu quelques nuls.
Mais il n'a pas gagné un match, Domenech.
Kantari, il a gagné à Marseille.
Il y avait 4 nuls.
Ah oui, 4 points. Nuls, 4 points. Ah
bah oui. Ça fait 4 points.
Pour être nul, c'était nul.
Si seulement il avait eu Maradona. Évidemment, il y a une grosse tension. On a posé la question à Ahmed Kantari ce midi, qui lui garde sa ligne. Voilà, estime que.
Oh bah
il y a,
oui,
y a des points qu'il la garde.
Moi, je serais lui, je sauterais la ligne. J'irais sur une autre ligne.
Est-ce qu'on peut écouter Ahmed Kantari? Écoutons-le.
Le problème, c'est.
Moi, je repartirais dans l'autre sens.
Le problème. Benoît, c'est que je vais te parler à Benoît directement. Je sens qu'ils sont pas concentrés.
Merci,
c'est vendredi.
Ah non, Pierre, mais bon.
Le problème, c'est qu'il y a l'urgence, mais que de l'autre côté, il y a des joueurs qui viennent d'arriver en fait. Face à Monaco, au coup d'envoi, il y avait 5 joueurs qui étaient arrivés au mercato. Donc forcément, les automatismes, c'est compliqué à mettre en place très rapidement. Et pour Ahmed Kantari, ce match contre le Havre est très très important parce qu'on rappelle que derrière, il y aura aussi une double confrontation en 8 jours. Le 12 avril, vous avez parlé d'un gros match, mais il y aura aussi un Metz-Nantes, ça sera peut-être moins suivi. Et juste avant, il y aura eu Auxerre-Nantes, donc 2 matchs à l'extérieur dans cette lutte à 3. Est-ce que Ahmed Kantari sera toujours là? Ça, c'est pas certain, parce qu'on peut imaginer que Valdemar Quitta, s'il y a une 6e défaite consécutive à domicile dimanche, puisse avoir envie effectivement d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton.
Et là aussi, on parlait de colère des supporters lillois, des supporters nantais.
Je pense qu'il va être patient, Quitta, quand même.
Évidemment. Non, mais est-ce qu'il ferait une erreur s'il se séparait d'Ahmed Kantari?
Mais l'erreur, ça a été déjà de donner les clés du camion à Castro et de dire tu as affaire avec des jeunes et au bout de quelques matchs il en avait déjà marre de Castro avec des jeunes forcément tu sais en plus il y a jeunes et jeunes. Il y a des jeunes qui peuvent tout de suite évoluer à un bon niveau. On a très vite vu qu'ils n'avaient pas le niveau. Alors peut-être qu'ils l'auront plus tard. Hein. Certains jeunes, il n'y a pas de problème. Mais étaient rattrapés par la pression des résultats. La Ligue 1, elle est difficile.
Jérôme, et je ne sais plus si tu t'en rappelles, mais je t'avais parlé du niveau des jeunes, justement. Parce que je suivais ce championnat et surtout cette équipe, le FC Nantes en 19 et en National 3. Mmh. Et honnêtement, je vais te le dire, moi je les avais regardés pratiquement, honnêtement, 2 matchs sur 3. Mmh. Ils avaient un très bon niveau.
Oui, mais chez les jeunes, tu sais très bien.
Tu sais
très bien. Il y a un fossé.
Ils ont été floués.
En fait.
Ils se sont dit, tiens, on va tous les mettre ensemble. Et
mais comment tu peux penser ça quand t'as autant d'années propriétaire d'un club comme Nantes, autant d'années, parce que c'est pas un novice qui t'a. Alors après, il a des gros défauts, mais certainement que le foot, il comprend un petit peu quand même. Tu vois. Mais alors après,
il y avait aussi Jérôme peut-être l'ambition de faire des économies dans un.
En plus,
surtout ça, je pense.
Mais c'est vrai. Mais là où.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il a fait une connerie incroyable de virer Castro pour nous mettre Kantari. Mais Kantari, il a prouvé quoi, Kantari? Pour arriver là, en tant que numéro 1, il était adjoint de Comboiré. D'accord, donc Antoine, ben, quand tu es adjoint, c'est pas
à Valenciennes.
Valenciennes,
en numéro 1.
Vous avez tout dit, donc forcément, ouais, Giro, quand tu prends Kantari.
Je n'en veux pas à
Kantari. Je suis pas là en train de dire Kantari, il aura jamais le niveau d'entraîneur de Ligue 1.
Et je lui souhaite. Ils ont essayé tous les profils.
Mais quels sont les profils? Tu veux dire Castro avec toute la réussite qu'il a eue à Dunkerque? Pour qu'est-ce qu'on t'arrive?
Écoutez-moi.
Mais qu'est-ce que vous vous focalisez sur les entraîneurs à Nantes?
Oui, c'est ce que j'allais te dire, moi, Jean-Michel.
Vous pouvez vous focaliser aussi souvent, vous pouvez faire venir.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Même les meilleurs entraîneurs du monde, même les 5 meilleurs dans. Il n'y a pas de joueurs.
C'est pas Ranieri qui
est venu. Il n'y a pas de joueurs.
Ranieri est passé, quand c'est Sao est passé, il y a eu des bons entraîneurs.
Et vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Depuis des années, c'est fait avec des bouts de ficelle, ces équipes.
Oui.
Nantes.
Oui.
Donc, à un moment donné, vous êtes rattrapé par la patrouille et vous allez descendre.
De toute façon,
répondez à ma question. Est-ce qu'il faut s'en séparer s'il y a des faits?
Tu t'en sépares pas. De toute façon, le résultat est le même.
Mais il va sauter.
Tu es au fond du trou.
Je te dis qu'il va sauter.
Ouais.
Il va sauter parce que Pierre-Yves nous disait. Pierre-Yves nous parlait du match de ce week-end.
Oui.
D'accord, vu comme ça, tu dis, ouais, le Havre. Mais le Havre, c'est une bonne équipe.
Ah bah oui.
D'accord,
c'est
avec les moyens. Équipe. Donc le Havre est une bonne équipe. Tu verras que Nantes,
c'est vrai.
Ils sont pas du tout au niveau du Havre.
Ouais.
Et je pense que le Havre, en se disant, là, pour de bon, on va s'assurer le maintien si on fait un résultat positif, ils ne perdront pas à Nantes.
Ouais.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quitte à, comme l'a dit Pierre-Yves, il va péter un cap parce que si défaite de suite ou peut-être un match nul, il va dire, c'est pas suffisant. Allez. Voilà. Je dégage l'entraîneur.
Et qui va y aller?
Et qui va y aller?
Il se mettra sur son 31.
Mais Ziani veut pas.
Ziani veut pas.
Bah oui.
Ah, c'est bien.
Il est suspendu en plus de. Il est suspendu de banc en plus.
Bah oui. Bon, Pierre-Yves, on suivra ça. 17h15.
Sans Abline pour Nantes.
Sans Abline en plus. Donc Nantes-Le Havre. À suivre sur RMC. Est-ce que vous voulez une info JR25?
Oui.
Vous êtes prêts?
Bien sûr.
Eh ben, on y va.
Vous l'attendez.
L'info JR25.
Vas-y, Jérôme.
JR25.
Allez, montre comme t'es grand, Jérôme.
Alors, non, mais on parlait de Kantari qui était en difficulté. Bon, bah, en effet, on avait quelques rumeurs et je me suis renseigné aujourd'hui. J'ai échangé avec des gens du Paris Football Club.
Okay.
Et en effet, Gilly, ses jours sont un peu comptés, en fait.
Stéphane Gilly est en danger, alors.
Oui, en danger sur le déplacement à Toulouse. Alors après, c'est un peu la période qui veut ça parce que la série est pas bonne du côté du Paris FC. On peut reprocher beaucoup de choses à Stéphane Gilly, mais c'est surtout les résultats et le fait que ils avaient un petit matelas d'avance sur le premier barragiste.
Ils en ont 5 points encore d'avance.
Ouais, ils en ont 5, mais
c'est le premier non barragiste.
Auxerre va recevoir Rennes ce week-end.
Ouais.
Donc on peut se dire peut-être qu'ils vont être sur une bonne dynamique, que t'as le Havre-Nantes comme tu l'as dit Steve, mais t'as surtout Paris FC qui va en déplacement à Toulouse,
ouais,
qui est pas facile. Et on me dit que si jamais il y a pas victoire au Paris FC, très certainement il y aura un nouvel entraîneur sur le banc du Paris FC.
Non,
il y a eu déjà quelques
déjà c'est une info parce qu'on nous disait que Gilly était
il y a quelques noms qui sont plus ou moins sortis comme ça. Moi je les dirais pas parce que déjà on m'a dit de pas le dire forcément.
C'est une info en fait.
Mais non, bah si, je viens de te dire que
c'est des demi-matchs.
Je viens de te dire que il y en a eu quelques-uns, c'est vrai.
Oh.
Mais s'il n'y a pas victoire à Toulouse, je pense en effet que Gilly sera plus sur le banc la semaine prochaine.
Je me permets juste de dire que les infos JR25, c'est 100% de réussite depuis que le concept a été inventé.
Ouais. Voilà.
Bah ouais, c'est... S'il dit la moitié des choses, tu m'étonnes, il a la moitié.
Quelle
moitié
des infos? Et s'il n'y a pas victoire à Toulouse, Gilly en grande difficulté, qui peut sauter du Paris FC.
Ouais, c'est un match nul.
Oui, bien, écoute, on sait qu'un entraîneur est viré à Nantes, c'est quand même un peu facile.
Ah non, mais Nantes, oui, t'as moins de.
Non, Pierre-Yves, rappelle-toi la dernière fois quand j'ai sorti.
Tu sais que ça va se passer. Rappelle-toi
quand j'ai sorti cette info. En disant Castro, ah oui, s'il ne gagne pas, voilà. Mais ils n'avaient pas perdu, donc ils l'avaient gardé une semaine après, et il était dégagé. Voilà.
Merci à Pierre-Yves Leroux, merci à Jean Baumel, merci à Maxime Tillien.
Soyez bon.
Ce soir,
surfez,
c'est Brest.
Sur la dynamique, ma
Olympique
dynamique. Allez-y.
20h45.
Et Jean, fais ce que tu peux.
Voilà.
Merci avec à tous. Et quand on a parlé d'avaler et de manger tout l'orchestre, t'étais pas concerné.
Ah d'accord. Donc ne mangez pas de trompette. Merci, c'est l'info de cette
frites.
Fin de.
Que des frites, du cannelle.
Allez, dans un instant, le dernier quiz de la semaine, tous contre Rotten avec
la frite sans sas, on les
embrasse. Louis Gerbier, c'est parti.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h45 sur RMC, on est là dans Rotten sans flamme. On finit les deux heures de Rotten sans flamme avec le quiz de Louis Gerbier. On va vous faire gagner un super cadeau. Deux auditeurs vont arriver dans un instant avec un qui va jouer avec la formidable équipe très soudée, très solide, Savidan, Larquet. Moi, je suis tout seul.
Ouais.
Voilà, comme d'habitude, hein, de toute façon, mais vraiment façon, seul contre tous.
Bah, c'est un peu individualiste,
j'ai,
toi.
J'ai un producteur qui est vraiment contre moi.
Ouais.
Mais c'est pas grave. Écoute, bon. Je vais arriver à gagner. J'ai gagné hier, donc je peux être dans une semaine positive.
20h, l'after JO, et 20h45, le coup d'envoi de Brest, Olympique de Marseille. Mais tout de suite, c'est le grand moment.
RMC. Tous contre Rotten. Ah,
salut Louis Gerbier.
Tous, ouais.
Salut l'équipe.
Salut Louis.
Alors.
Salut.
Toi, t'es pas contre moi, les gars. T'es neutre.
Tu sais bien que. Oui.
En tant qu'arbitre, je vais vous demander de la discipline. Chacun s'écoute et on écoute bien les questions pour pouvoir y répondre efficacement. D'accord ? Il y a de l'enjeu, il y a un beau cadeau.
Là, à mon avis, il y a eu recadrage des chefs.
Non, mais il y a de l'enjeu et parfois on n'entend pas les questions. Donc pensez que à tous ceux qui nous écoutent, c'est un peu excluant.
T'es fait bouger par
Grégory et Alexandre vont s'affronter ce soir. Salut à vous deux.
Bonsoir à tous.
Salut Alexandre.
Passer des messages.
Salut Karim.
Grégory. Tu es supporter d'Arsenal, tu veux jouer avec qui ?
Avec Jérôme, j'ai déjà perdu avec lui, je vais gagner un jour.
Aïe. Tu veux jouer avec Jérôme. Grégory, si tu perds le quiz, Arsenal ne sera pas champion d'Angleterre, ok ?
Oh, je suis déjà dans le mal.
Il est déjà en panique pour Arsenal, le pauvre. Et Alexandre, tu seras avec le reste du monde,
bon
ok ?
Bon courage, Alex. Tu vas voir, ça va bien se passer.
Le cadeau, c'est une enceinte portable de la marque Muse. Louis, j'ai fait la loi, donc là, Muse. Normalement, tu vas être...
C'est super sympa. Le thème, c'est l'homme de la semaine.
Ah. Jérôme ?
Arrête, j'aime pas qu'on parle de moi.
Habib Bey.
Le grand Habib.
Monsieur Bey.
On l'a fait hier, ça.
Non, on l'a pas fait hier.
On l'a fait avec Loïc Moreau, mais mardi.
Ah, mais on l'a fait avec Loïc Moreau.
Mais c'est une autre personne, donc les questions seront différentes.
Tu vas voir que moi, c'est sur ces anciens.
On va voir si c'est mieux.
C'est vraiment pour juger. On aura un élément de comparaison.
Vous savez. Question Luis Enrique.
Allez.
Vous savez combien de points nous avons moins que l'année dernière?
Va pas étudier.
La question Luis Enrique.
Alors.
Combien de matchs a-t-il dirigé au Stade Rennais, Habib Bey ? Le plus proche gagne. 17. Non. 17, ça fait
plaisir. À toi, Jean-Michel.
Non, oui, tu me prends pour quoi ?
Pour la peine de système. Sois juste, je te laisse, c'est l'âge.
Allez.
Alors, il est resté quasiment.
Normalement, ça doit sortir comme ça.
Oui, allez, jouez.
Je pense 34.
40.
34 et Jean-Michel
35.
C'est 39, bonne réponse.
Bravo Jean-Michel.
Incroyable. Super.
Belle tactique.
Oh, qu'est-ce que je suis fort. La vache.
À deux doigts de me foutre en l'air mon chrono, mais. Question Larquet.
La routaine.
Qui n'en veut pour les jeunes?
Gerbier, t'es un truand. Rotten aussi.
Écoute, je sais pas. C'est toi le truand là sur le coup.
Quel ancien bleu des années 90 a été son coéquipier à Strasbourg, début de sa carrière?
De Dacour.
De quoi? Vas-y, redis.
Quel ancien bleu des années milieu offensif. Quel ancien bleu des années 90 a été son coéquipier à Strasbourg?
Marc Keller.
Pi- Tirès.
Non, non. À Strasbourg.
Pouget.
Pouget. Non.
Non, c'est à Metz.
Il est né à Brest.
Ah.
Mais il a
Martins.
Oui.
Coco Martins.
Mais il a un nom qui fait pas trop breton.
Corentin.
Coco.
À Coco. Un partout entre Coco Jérôme et le reste Rico. Du monde.
Bon bah on a eu la question Larquet, question Savidon.
Ah bah oui.
Bah c'est pas c'est forcément quoi, Florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
C'est quoi cette question,
c'est quoi la question
eh ben, je vais citer tous les clubs de la carrière d'un joueur qui a fait que des clubs pas hyper florissants quoi.
Ah ouais. Un peu comme Steve.
Ouais, comme...
T'aimes bien la rajouter, Ben.
T'arrêtes, Benoît.
T'as une gimmick ou quoi? C'est marqué dans le script ou quoi? Tu peux la rajouter juste après.
C'est Karim qui nous dit de le redire à chaque fois, donc on le dit.
Karim, c'est fait.
On cherche un ancien
Nedjari qu'on embrasse.
Un ancien coéquipier d'Habib Bey au Racing Club de Strasbourg. Stade Rennais, Stade Lavallois, FC Lorient, Ipswich Town.
Oh. Ipswich.
Ipswich Town.
Ouais.
Strasbourg, excusez-moi. Strasbourg toujours, oh, FC Lorient vraiment... de nouveau, Belle Stade carrière. Lavallois de nouveau.
Oh, mais attends, il a été puni combien de fois lui?
Il a de la pluie.
Non, ouais. Stade Lavallois ouais. deux fois. Non, mais ouais. Ça va pas.
Et c'est un français?
Oui, il est français.
Ah bah oui.
Et il a un nom avec un
Le
mélange.
Le Pen.
Oui, Ulrich Le Pen.
Bravo.
Un mélange d'Allemagne et de Bretagne.
2-1 pour le reste du monde et pour Alexandre.
Magnifique pied gauche, magnifique pied gauche.
C'est vrai, c'est vrai.
Ah là là,
très très bon pied gauche.
C'était pas la droite lui.
Non.
Excellent.
Une blague grande gueule.
Bravo. Oh bien joué.
Question con.
Qu'est-ce que vous êtes con?
RMC.
Mais qu'est-ce que vous êtes con alors?
La question con.
Ah j'en ai deux.
Quel lance Préparez-vous, attention.
Eh non, mais franchement.
Ça peut être rapide. Allez, là. Si. Quel ancien coéquipier d'Habib Bey à Strasbourg et Marseille est un personnage du Muppet Nyang. Show?
Mamadou Niang.
Non. Personnage du Muppet Show.
Ah, est-ce que vous connaissez le Muppet Show?
Muppet Show.
Ah,
oui. Kermit.
Kermit Terrain.
Non.
Ziboja.
Louboja, personnage du
Muppet Show. Louboja. Drogba, Marley, Louboya.
Non,
Louboya.
Oui, Peggy.
Peggy
la coche.
Oui.
La coche.
Peggy.
Ouais, c'était trop
bien. Peggy la cochonne.
Bah oui, c'est ça, le Muppet Show. 3-1 pour le reste du monde.
Question Costil.
Oh oui, Jack, il la sort. Oh oui, non, posez Richard.
Il est de retour.
Il est de retour. Oh, ça suffit.
Ah, ça suffit. On peut dévoiler la coulisse quoi. Si non, on regarde.
Non,
garde pour
arrête, Jérôme, arrête de tricher.
J'aime pas gagner en trichant.
Allez, quel gardien international connu pour son talent sur le terrain, mais ses sorties médiatiques sulfureuses a été son coéquipier à Strasbourg?
Ah ben Chilavert.
Bravo.
Ça devient gênant. 4-1 pour
ça devient gênant. Allez la routine. Allez envoyez la routine.
Encore, il reste 2 minutes.
Attention pour Grégory, Arsenal va perdre le titre.
C'est quoi Joker.
Le Joker Kings League.
Et ça c'est une dinguerie.
J'avais oublié celui-là.
Toujours Antoine aux manettes qui te le sort comme ça
réalisateur.
On l'avait
pour intérêt hein, sinon.
Dernière question avec Strasbourg, question votre préféré d'ailleurs, question Berrichon.
Ah. Château, toujours.
Alors, Louis, est-ce que je peux t'interrompre une seconde?
Aïe.
Tu me permets ou pas?
Bien sûr.
But à Laval.
Non, pas du tout. On donnera la compo marseillaise qui vient de tomber dans un instant, dès que nos correspondants seront là. Je vais vous la donner,
parce qu'elle est
sur rmcsport.fr. Rouli, Wea, Pavard, Aguerre, Demerson, Hojbjerg, Vermeeren, Timber, donc trois milieux de terrain et trois attaquants, Guiri, Greenwood, Pechao. Voilà la première compo d'Habib Bey avec l'OM.
Voilà. C'est magnifique.
On en était
à la question Berrichon. On cherche le coéquipier d'Habib Bey avec qui il a joué le plus de matchs dans sa carrière. Ce joueur a terminé sa carrière pro à la Berrichon.
Le Roi.
Non. Parce qu'il a joué le plus de matchs avec notre ami Habib Bey, il a joué à Strasbourg.
Ouais.
Ouais, ah bah d'accord. Écoute,
et à la Berrichon.
Oh, Bertin.
Et bah voilà, Teddy Bertin.
Ah, bah c'est lui en plus.
Ben oui.
Bertin.
Oh,
et ça fait 4-3.
Question auditeur.
Grégory Alexandre.
Quel joueur.
Grégory le fan.
Chers auditeurs, quel joueur anglais, ancien coéquipier d'Habib Bey à Newcastle, a joué à l'OM plus tard dans sa carrière?
Steven Fletcher.
Non, plus enfin
simple sur les côtés.
Qui?
Barney.
Joey
Barton.
Oui, Barney. Barney. Qui a dit Barton?
Magnifique.
C'est Alex. Ça fait 5-3 merde, pour Alex et le reste du monde. Alors,
voilà. Ah, tiens la routine.
Stop.
La bonne réponse. Vaut 3 points.
Combien?
3 points.
Il va être sauvé par la routine.
Combien?
3 points. Allez, 3 points.
Allez, on finit. Finit cette semaine sur une balle de match.
C'est la saison d'Arsenal qui se joue là.
Avec la question Papin. Quel ancien coéquipier de Jérôme a rejoint Newcastle après son départ définitif du PSG?
Tu peux répondre ou pas?
Oui.
Jérôme Pancrate.
Donc, vous la connaissez désormais.
Ah, putain, celle-là, je m'en remets.
Le joueur que je cherche, vous l'appelez Jérôme, quoi qu'il en soit.
Voilà.
Quel vice-champion du monde fut son coéquipier en championship à Doncaster?
Oula. Vice-champion.
Ah, Bibay.
Jérôme
Ramy?
Non.
Ah non, à Doncaster.
Non, parce que Ramy, il a été champion du monde.
Doncaster?
Ouais.
Vice-champion du monde.
Jérôme Charbonnier?
Non, parce que Charbonnier a été champion du monde.
Ouais.
À découvrir sur muse-europe.com.
Et en Espagne. Merci à Louis Jarnier. Merci à Jean-Michel Marquet. À Steve Savidan.
Merci Jean-Mimi.
Merci Jérôme Bretagne.
Merci mon Stevie.
Dans un instant, l'After JO avec Christophe Cessieux. Et puis à 20h45, le coup d'envoi de la 23e journée de Ligue 1. Brest Olympique de Marseille.
Gros match ce soir. Restez bien. Écoute d'RMC. Et nous, on se retrouve après ce week-end de Ligue 1, encore une fois, avec beaucoup de surprises, beaucoup d'actu lundi. Comme toutes les semaines, du lundi au vendredi, Rotten sans flamme ne s'arrête jamais de 18h à 20h et lundi, on sera en forme. Passez un bon week-end, je vous embrasse, faites attention sur la route, vous êtes nombreux et profitez des vacances. Bisous, à lundi.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.